Il est 18h sur Europe 1. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les débats de Punchline. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Hélène Zellani.
La bonne nouvelle du jour pour les 5 700 000 agents publics. Dès le 1er juillet, leur traitement augmente de 3,5%, la plus forte hausse depuis 37 ans, selon le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini. Conséquence concrète, plus aucun agent ne sera payé en dessous du SMIC. Un exemple, un agent d'accueil en début de carrière touchera 45 € de plus par mois, 543 € supplémentaires sur une année. Prudence face au regain des cas de Covid. Elisabeth Borne demande aux préfets et aux autorités sanitaires d'encourager le port du masque dans les lieux de promiscuité et les espaces clos, notamment les transports en commun, des recommandations, mais pas de caractère obligatoire. La première ministre qui poursuit ses consultations en vue de former un gouvernement. Ce matin, le chef du groupe LR, Olivier Marleix, a dit non à une coalition, mais oui pour travailler ensemble sur certains textes, sur le pouvoir d'achat par exemple. Coup d'envoi des travaux de l'Assemblée nationale cet après-midi avec le vote à bulletin secret pour désigner son ou sa présidente. Pour l'instant, pas de majorité absolue des suffrages exprimés, mais la majorité relative suffira au troisième tour. La candidate de la majorité présidentielle, Yaël Braun-Pivet, ex-ministre des Outre-mer, devrait être élue. Les maisons Phoenix, c'est fini. Faute de repreneurs, leur constructeur, le groupe Geoxia, est placé en liquidation judiciaire. Plus de 1100 salariés devraient se retrouver au chômage. Et puis le tournoi de tennis de Wimbledon, Richard Gasquet, 69e mondial, est qualifié pour le deuxième tour. 3h30 de match contre le Portugais João Sousa.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et bienvenue à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, on va évoquer les temps forts de l'actualité, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, temps fort de la vie démocratique évidemment française, puisque les 577 députés ont déposé un bulletin dans l'urne pour élire leur présidente de l'Assemblée nationale. A priori, ce sera Yaël Braun-Pivet. On va prendre des nouvelles dans un instant de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je salue Karim Zerebi qui est là, consultant CNews. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur du site Atlantico. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire qui connaît la 5e République sur le bout des doigts. Et maître Gilles-William Golnadel. Bonsoir, cher maître. Merci d'être avec nous. Tout de suite, direction l'Assemblée nationale où se trouve Élodie Huchard, notre envoyée spéciale. Élodie, ça y est, le second tour de scrutin est terminé. On aura les résultats dans quelques instants pour savoir qui sera le quatrième personnage de l'État. Donc, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. La présidente, parce qu'il n'y a que des femmes en lice, c'est ça ?
Oui, exactement, Laurence. Ils étaient 5 candidats sur la ligne de départ, mais il n'y a plus aucun suspense et aucun doute. Ce sera bien une présidente de l'Assemblée nationale parce que Sébastien Chenu s'est désisté. Vous le savez, après chaque tour, le doyen de séance, José González, proclame les résultats et demande à chaque candidat s'il veut ou non se maintenir. Et Sébastien Chenu a choisi de se désister. Vous l'avez dit, le second tour est désormais clos. En ce moment, on procède au dépouillement. Ça prend entre 40 et 45 minutes à peu près le vote qui s'est terminé juste avant que je vous parle. Et puis, il faut comprendre aussi pourquoi Sébastien Chenu a choisi de se désister. Il le savait, de toute façon, il n'allait pas être élu au perchoir. Et donc, c'est un geste éminemment politique. Marine Le Pen et ses lieutenants le disent, le répètent, ils sont une opposition à Emmanuel Macron, mais une opposition constructive. Ils ne veulent pas être dans l'opposition frontale. Et bien, avec ce geste, Sébastien Chenu le montre. Il rend l'élection de Yaël Braun-Pivet, qui de toute façon n'est pas un secret, sur lequel il n'y a pas d'enjeu, finalement plus rapide. Alors, on le sait, maintenant, Yaël Braun-Pivet va être élu pour la première fois, ça sera une femme au perchoir. C'est un signe, évidemment, pour la majorité. Une première ministre, une présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, on rappelle aussi qu'Aurore Berger a pris la tête du groupe En Marche. Mais attention, parce que dans l'entourage de Yaël Braun-Pivet, on rappelle surtout sa loyauté au président de la République, qu'elle a été présidente de la Commission des lois pendant 5 ans, qu'elle venait d'être nommée ministre des Outre-mer. Donc, la règle est claire. Pour eux, oui, une femme, c'est un symbole. Mais attention, ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Et puis, surtout, vous l'avez dit, c'est un poste clé. On l'a beaucoup répété. Cette Assemblée, elle va être extrêmement agitée. Il faut donc quelqu'un qui soit capable de fermeté et de compromis. Et on va le voir notamment dans les jours à venir, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est le début d'une semaine marathon pour l'Assemblée. Il y a tous les postes clés à distribuer cette semaine. Certains envisageaient un compromis, mais on sait que pour certains postes, ça va être très disputé.
Merci beaucoup, Élodie Huchard, avec Noam Pradel et Charles Baget à l'Assemblée nationale. Jean Garrigue, un tout petit mot sur cette élection. Alors, c'est un temps démocratique, je l'ai dit, pour la République, avec un personnage président de l'Assemblée nationale qui a des pouvoirs réellement, qui va pouvoir influer sur le cours des textes qui seront examinés, qui a un véritable pouvoir décisionnaire ou pas ?
Enfin, directement.
Décisionnaire, non. Mais...
Non, mais c'est quand même quelqu'un qui, surtout aujourd'hui, dans ce contexte, avec une majorité relative, va jouer un rôle très important pour essayer de rapprocher les points de vue. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un arbitre, un organisateur et, j'allais dire, un chef d'entreprise. Mais en tant qu'organisateur, c'est lui qui part. Qui organise la conférence des présidents, qui fait l'agenda un peu, mais qui surtout essaye de mettre de l'huile dans les rouages entre les différents partenaires. Ça a toujours été comme ça depuis Jacques Chaban-Delmas. C'est quelqu'un qui, le plus possible, doit travailler sur la neutralité et sur le rassemblement des positions. J'espère que ce sera le cas de Yael Braun-Pivet. Il y a une chose intéressante là, avec le désistement
du Rassemblement national. Ça dénote qu'ils veulent une opposition constructive.
Ah, c'est très clair. C'est politiquement, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ils vont peut-être favoriser l'élection de Yael Braun-Pivet dès le second tour, alors qu'on attendait plutôt un troisième tour. Il faut savoir que pour le second tour, il faut une majorité absolue. Et en se désistant, ils lui permettent d'avoir une majorité absolue de ceux qui restent. C'est-à-dire éventuellement avec un apport des Républicains, par exemple, ou d'une partie des Républicains. Je ne sais pas si ce sera comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et ça complète ce qu'a dit le président de séance, qui était le doyen de l'Assemblée, qui est un député du Rassemblement National et qui a fait un petit discours dans lequel il se montrait constructif, dans lequel il disait « Nous, on ne fera pas de l'opposition pour l'opposition. »
C'est intéressant. En même temps, on n'est pas encore dans le dur des textes, non. Jean-Sébastien Ferjou, du site Atlantico. On n'est pas dans la réforme des retraites, on n'est pas sur la loi pouvoir d'achat, on n'est pas, encore une fois, dans le dur de ce que va proposer Emmanuel Macron.
Non, bien sûr, mais je crois que c'est effectivement tout à fait à noter cette attitude du Rassemblement national. Et dès le soir du deuxième tour de législative, Marine Le Pen a dit qu'elle entendait être constructive. Mais ça met la majorité, enfin, ou la majorité relative d'Emmanuel Macron face à un défi intellectuel fascinant. Parce qu'il nous répète que c'est l'extrême droite et que donc il ne faudrait, en tout cas, une partie de cette majorité, M. Ndiaye ou d'autres, qu'il ne faudrait en aucun cas avoir affaire avec eux. Mais la question intellectuelle, elle est fascinante. Imaginez donc, admettons, le Rassemblement national a une histoire différente. Ils viennent de. En dehors du champ de la République. Admettons que c'était le cas il y a un certain nombre d'années. Mais une fois que vous faites ce constat-là, qu'est-ce que vous faites ensuite ? Est-ce que vous saisissez l'occasion de faire revenir des brebis perdues dans le droit chemin, avec tous les guillemets du monde, ou est-ce que vous les rejetez toujours à l'extérieur parce que vous avez besoin d'un ennemi et vous avez besoin de faire étalage de votre propre vertu ? Ça, ce défi politique-là, il va être très intéressant à examiner.
Maître Golnadel, sur à la fois l'attitude du RN et le fait que ce soit une femme qui soit présidente de l'Assemblée. Ce qui, évidemment, va vous émouvoir.
Oui, non, bien sûr. Enfin, ça manque un peu de parité, que ce soit que des femmes qui se présentent.
Le temps est enfin venu.
Convenez-en.
Qu'il n'y ait plus de parité, qu'il n'y ait que des femmes.
Ceci,
blague.
Ceci gaiement posé. D'abord, je fais mienne les analyses que je viens d'entendre. Le Rassemblement national entend être un parti respectable et aspire donc à être respecté. La personnalité de Mme Braun-Pivet l'aide quand même sur ce chemin-là parce que ça n'est pas, on ne peut pas dire que ça soit la gauche qui marche. Hein, c'est plutôt le centre ou la droite. C'est une personnalité assez aimable et consensuelle, donc ils ont pas à se faire violence pour cela. Pour le reste, l'enjeu d'accepter maintenant le Rassemblement national comme un parti comme un autre est moins difficile parce que d'abord, les résultats sont là. Dans les duels entre ce qu'on appelle l'extrême gauche et ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est la seconde qui l'a le plus largement emporté, comme s'il y avait une manière de barrage invisible contre l'extrême gauche, d'une certaine manière.
Et pas
manière.
Contre le Rassemblement national.
Et pas contre le Rassemblement national. Et d'autre part, il n'y a pas d'enjeu électoraliste. Là, les macroniens sont... D'abord, ils ne peuvent pas le faire le difficile, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont nul besoin d'effrayer le client. Donc, pour ces deux raisons cumulées, on peut penser effectivement que le Front républicain est en passe d'être mort et enterré.
Karim, un tout petit mot là-dessus.
Non, mais l'effacement du RN, je ne sais pas s'il démontre qu'ils sont dans une posture constructive. En tout cas, ils ne sont pas dans une posture d'obstruction. Donc voilà ce que ça manifeste surtout ce soir. Après, ce qui sera intéressant, c'est le comptage des voix qui vont se rallier à Gaël Braun-Pivet. C'est parce que c'est intéressant de voir s'il y a des députés républicains qui vont se rapprocher, parce qu'il faut dire quand même que le duel, c'est Gaël Braun-Pivet-Nupes. Donc ce ne serait pas choquant de voir des députés les républicains voter pour Gaël Braun-Pivet. Donc mais ça serait intéressant au comptage de voir un petit peu de combien est sa différence.
On comptera ça dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On fait une petite pause, on posera ensuite cette question. Est-ce que nous sommes face au risque d'un pays bloqué, notamment pour ses réformes? Réponse dans un instant, tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, consultant CNews, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. François Pipponi nous a rejoint. Bonsoir François. Bonsoir. Ancien député, alors fin connaisseur de la vie parlementaire, vous allez nous en dire toutes les coulisses. Et Maître Gilles-William Golnadel, avocat.
Il n'y connaît rien.
Toujours avec... Si, vous y connaissez assez pour avoir votre mot à dire. On a parlé donc de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a une rôle pivé, ça va tomber d'ici une petite demi-heure, je pense, avant la fin de cette émission. Il y a aussi de son côté Elisabeth Borne qui cherche toujours à former un gouvernement d'ouverture. Elle consulte les parlementaires, elle consulte les partis politiques, elle a rencontré le Rassemblement national, elle va rencontrer un peu tout le monde à la recherche de ce gouvernement tant attendu. Parce que la question, c'est est-ce qu'on va se trouver face à un pays bloqué pour ses réformes, François Pipponi? C'est la vraie inquiétude. Parce qu'on a des réformes extrêmement importantes à faire avancer. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une France complètement bloquée à l'automne?
Alors, il y aura des majorités de circonstances. On voit bien, par exemple, pour le premier texte sur le pouvoir d'achat, qu'il peut avoir une majorité avec, ensemble, le parti présidentiel et les Républicains. On voit bien comment ça se passe, malgré une bataille dans l'hémicycle qui va être compliquée pour le gouvernement. Le budget, on peut imaginer que ça sera un 49-3, c'est-à-dire qu'il y a un moyen juridique de le faire passer. Bon, après, c'est compliqué. Après, tout va se bloquer parce que ça va être des batailles homériques dans l'hémicycle, des milliers d'amendements, des dizaines de milliers d'amendements avec des gens qui sont là pour ça. Donc oui, le risque, il est réel.
Mais parce que là, on voit le Rassemblement national qui dit on veut être dans une opposition constructive, la France insoumise qui va proposer d'autres textes. On n'est pas encore dans le dur, je le rappelle. On n'est pas encore dans la bagarre du fond.
On sera dans la bagarre du fond la semaine prochaine, avec D'accord. le texte sur le pouvoir d'achat. Où là, on voit bien comment la NUP va faire des propositions relativement larges sur les salaires, l'augmentation du SMIC, l'augmentation...
1 500 euros le SMIC.
1 500, enfin, ils ne sont pas même passés à 2 000.
Oui, même 2 000 entre-temps.
Bon, et donc, il y aura des milliers d'amendements là-dessus. Et puis la droite qui dit, nous, on est prêts à faire un effort pour le pouvoir d'achat, mais attention au compte public. Oui. Et le ministre de l'économie et des finances qui dit, on est déjà dans le rouge. Bon, donc on voit bien qu'il y aura un débat entre Bercy, les Républicains et la NUP. Et au milieu, il y aura sûrement un texte adopté avec les Républicains. Mais après, chaque texte sera une bataille. Et est-ce que la majorité avec... Là, on a vu 238 voix pour Gaël Braun-Pivet au premier tour. 238 députés qui doivent être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour combattre les oppositions.
C'est quasi impossible ?
Ah, c'est quasiment impossible.
Donc il faut trouver...
Y compris physiquement. Hein, c'est-à-dire que, allez, on peut imaginer qu'il y aura régulièrement 50 députés du Rassemblement national, 50 députés de la NUP, une vingtaine des Républicains. Donc ça fait 120 de l'opposition. Il faut que la majorité, il soit 130, 140 à chaque fois, sur 238. Bon, et alors les députés, ils font autre chose, ils sont ailleurs, voilà. Et donc c'est très compliqué d'avoir un groupe solide, tout le temps, mm-hmm. y compris le vendredi à 2h du matin lorsqu'on vote.
Pareil chez les autres.
Hein. Oui, mais les autres, entre guillemets, j'allais dire, ils ont envie d'être là, ils veulent y aller, ils veulent combattre, bon. Et donc, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Bon, donc, je ne vois pas, moi, comment ça ne se bloque pas à un moment.
D'accord. Karim Zerebi, c'est une vraie inquiétude pour les Français, que le pays soit bloqué. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent.
Je ne sais pas si ça. C'est une vraie inquiétude pour les Français ou si ce qui va sortir du Parlement qui est une vraie inquiétude pour les Français concernant leur vie quotidienne en matière de pouvoir d'achat, de sécurité et d'amélioration de leur vie. La réalité, c'est qu'il ne faut pas feindre de ne pas savoir que c'est vers les Républicains que devrait se trouver le plus clair du temps, les accords avec la majorité présidentielle. Vous prenez le sujet retraite. ils sont sur la même ligne, 65 ans. On prenait le sujet pouvoir d'achat, ça a été dit par François Pupponi. Il y a à la fois les comptes publics vers lesquels va avoir un regard, mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà envoyé un signal là-dessus. Et puis de l'autre côté, des gestes qui doivent être faits. Il suffit de prendre quelques amendements des Républicains qui soient raisonnables et sérieux pour les comptes publics pour que derrière, il y ait cette force d'appoint. Sur les enjeux de sécurité, de justice, là aussi, les Républicains ont fait des propositions. Ces propositions, un grand nombre d'entre elles peuvent être entérinées par Gérald Darmanin. Madame lui-même, ministre de l'Intérieur, il vient de cette famille politique, ne l'oublions pas. Donc vraiment, l'opposition frontale sera, de mon point de vue, NUPES face à ce qui sera proposé. L'opposition qui voudra acquérir une forme de légitimité institutionnelle, ce sera le RN. C'est donc il faudra qu'elle soit un peu plus tempérée tout en marquant son opposition et en faisant des contre-propositions. Mais celle qui, effectivement, pour exister, devra non pas être dans l'alliance gouvernementale en totalité, mais dans le deal permanent sur des projets ponctuels et conjoncturels, c'est LR. Donc je crois que, d'ailleurs, le président de la République et ceux qui l'entourent se sont déjà tournés pour tenter, j'allais dire, de séduire, de débaucher, on pourra utiliser le verbe que l'on veut, les députés LR pour qu'ils se rapprochent de la majorité.
Jean-Sébastien Ferjou, d'Atlantico.
Je crois que cette logique de débauchage, justement, elle ne correspond pas du tout à la culture du compromis qui peut exister dans d'autres démocraties parlementaires. Alors après, ce sont d'autres institutions. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui a fait semblant de ne pas se rendre compte que c'était d'autres institutions avec un général, un chef de la majorité parlementaire qui est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire quand une coalition s'effondre, les débauchages, les débauchés décident de réembaucher ailleurs, bah, le président disparaît, enfin, du Conseil ou le chancelier disparaît lui aussi. Ça n'est pas le cas dans les institutions françaises. Donc je pense qu'on est dans une configuration qui sera difficilement tenable, même si ça ne veut pas dire blocage absolu, pour les raisons qui ont été évoquées à la fois par François Pupponi ou par Karim, mais aussi parce qu'on peut gouverner par ordonnance. Et puis regardez, là, le gouvernement a décidé, je ne sais pas quoi, le contrôle des loyers, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs, mais enfin, bref.
Pourquoi c'est une mauvaise idée?
Ben regardez, il y a une expérience par exemple...
3,5 de hausse, c'est bien.
Grandeur nature, une expérience grandeur nature entre Saint-Paul et Minneapolis, deux villes jumelles aux États-Unis. Saint-Paul a fait passer une loi sur le contrôle des loyers, moins 84% sur les permis de construire. Le contrôle des loyers, ça n'a jamais marché nulle part, dans aucune circonstance, jamais dans l'histoire économique, ça n'a marché. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper. Le sujet, c'est qu'en général, vous aggravez la situation parce que vous faites en sorte qu'il y ait moins de propriétaires qui mettent leur logement, moins de construction. Enfin bon, c'était pas le sujet premier.
Le budget, le logement, il pèse très très lourd pour les Français.
Mais je suis bien d'accord. Moi, je pense que le premier dossier dont on devrait se préoccuper, c'est le logement. Mais c'est là où le diable est dans les détails, parce qu'on peut se mettre d'accord sur une augmentation. Alors, il y en a un qui dit c'est 3,5, l'autre qui dit c'est 2,1, j'en sais rien. Sauf que si vous ne dites pas, non mais attendez, la logique, la matrice intellectuelle, elle est complètement fausse, parce que le sujet, c'est la réglementation foncière. Le sujet, c'est la manière dont on limite les constructions dans les zones où on a besoin de logements en France, où on limite la construction en hauteur. Enfin bon, bref, on pourrait le décliner longuement. C'est là où on voit que c'est très difficile, justement, d'arriver à un compromis, parce que même sur les retraites, on dit derrière comme ça l'objectif de 65 ans. Mais derrière l'objectif de 65 ans, il y a des choses qui sont extrêmement différentes en réalité, y compris dans la logique de financement ou dans ce qu'on anticipe, dans ce qu'on voudrait d'un système de retraite. Parce que vous pouvez avoir, derrière l'âge de 65 ans, dire on introduit un peu de capitalisation dans un système par répartition, puisque les fonctionnaires en bénéficient d'ailleurs déjà. Mais bref, on pourrait le décliner sur tous les sujets, en réalité. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet de débauchage, parce que ça, c'est le pire de la politique. Là, on cumulera les inconvénients de la 5e, la centralisation, la verticalité, avec les inconvénients de la 4e. C'est exactement l'inverse.
Encore plus la colère des Français. François Pupponi,
non, mais là où ça va être compliqué, c'est qu'il y a effectivement, on voit bien la majorité qui est en train de se dégager, mais que les oppositions vont faire tout pour bloquer le système. Et le règlement de l'Assemblée tel qu'il avait été voté permet justement, avec en déposant des dizaines de milliers d'amendements, on peut même plus être en temps programmé, parce que ça avait été prévu pour permettre à la majorité de pouvoir plus débattre par rapport à l'opposition. Là, les oppositions vont pouvoir le faire largement. Et donc, c'est là où ça risque de se bloquer, d'être très long, très compliqué, pour faire passer le moindre texte. Même si, effectivement, à la fin, il y aura une majorité pour les voter. Mais ça sera un temps très long pour y parvenir, avec l'obligation de voter le budget avant le 31 décembre. Mmh. Ça va être la priorité du gouvernement.
Donc, avec le joker du 49-3.
Oui, mais voilà, une fois par an. Il va le faire cette année sûrement. Ça veut dire que le problème de la réforme des retraites, qui devait passer avant la fin de l'année, ça a sûrement reporté de plusieurs mois.
Encore en 2023.
Encore là, et là, alors là pour le coup, avec des batailles dans l'hémicycle et dans la rue, qui seront très compliquées.
Maître Golnadel, sur cette possibilité de blocage du pays.
Mais écoutez, moi, je...
Vous y croyez ?
Au blocage ?
Oui.
Ah, mais oui, ça pour, j'y crois dur comme fer. Aussi bien à l'Assemblée.
J'y comptais même, je vois.
Que dans la rue.
Ah non, rage, au désespoir.
Non, ne croyez pas ça, mais non, j'entendais. Karim disait assez justement que la possibilité de soudure, c'était entre les marcheurs, ou je ne sais pas comment il faut dire, et les républicains. Sauf que là où c'est compliqué, c'est que c'est difficile d'abord de passer de Jupiter à M. Pinet.
Il en est capable ou pas, Emmanuel Macron ?
Oui.
Il est assez plastique.
On peut dire. Bah, moi, je l'ai toujours comparé à une chauve-souris. Donc, effectivement, il est...
Une chauve-souris, pourquoi ? Parce que ce n'est pas très flatteur pour le président.
Mais ça ne se voulait pas forcément un compliment, ni une insulte. Je suis oiseau, voyez mes ailes. Je suis souris, vive les rats. Il est capable de tout. Le problème, c'est qu'il est capable de tout en même temps. Hein. Bon. Donc, c'est difficile de passer de Jupiter à Pinet. Premièrement. Deuxièmement, la population elle-même a été égarée par la dernière campagne, par les marcheurs, qui a été une campagne qui était, d'une certaine manière, qui était très à gauche. On comprenait pourquoi on avait envie de voter NUP d'une certaine manière, puisqu'il y avait l'argent magique, on faisait plus grand-chose pour la retraite. Donc effectivement, les gens pensent que... Pourquoi ne pas aller jusqu'à 2000 tant qu'on y est ? Pourquoi pas 2005 ? Donc, je veux dire, revenir maintenant... À la rigueur, c'est extrêmement difficile. Et puis, les républicains tiennent rigueur de la manière dont ils ont été traités par monsieur Macron. Donc, mais vous savez, le temps va faire son œuvre. Hein. Il va s'en passer des choses. Et la semaine prochaine, et en septembre, et en octobre. Donc, on en reparlera. Vous savez, c'est... Je vais loin, mais c'est quand les temps sont extrêmement... cruel, qu'on peut parler d'unité nationale. L'heure n'est pas encore venue.
Il y aura la grogne politique, il y aura aussi la grogne des syndicats, parce qu'eux aussi sont prêts à la bagarre sur la réforme des retraites, mais pas seulement. Aujourd'hui, le ministre Stanislas Guérini a annoncé l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Le compte n'y est pas, c'est ce que dit ce syndicat Eiffo Santé de La Roche-sur-Yon. Écoutez-le.
Tout simplement, c'est insuffisant. 3,5%, c'est largement insuffisant. Ça, déjà, il n'a pas compté l'inflation. Si on compte le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans, on est loin du compte. 3,5%, on se moque de nous à nouveau. On a une perte de pouvoir d'achat qui est très conséquente au niveau des agents. L'inflation n'a pas été comptée. Il faudrait pratiquement 5 points à chaque fois tous les ans. Donc, en fait, on est loin du compte.
François Pupponi, voilà ce que dit ce syndicat Eiffo Santé. Le compte n'y est pas.
Tout sera comme ça.
Tout sera comme ça.
Chaque fois qu'il y aura une mesure qui sera prise, on expliquera, on a vu pour les loyers, on bloque à 3,5, c'est pas suffisant. On augmente de 3,5 les fonctionnaires, c'est pas suffisant.
Parce que ça coûte très cher à l'État, tout ça.
Ah, mais c'est des milliards d'euros à chaque fois, parce que là, c'est tous les ans. C'est-à-dire que, bon. Et donc, c'est compliqué. Mais la vraie difficulté, c'est qu'avec le quoi qu'il en coûte, on a donné le sentiment aux Français que c'était facile. Qu'on pouvait ouvrir les vannes. Et ce qui a été fait pendant un certain temps. Le problème, c'est que d'abord, on l'a fait, mais qu'il faut maintenant payer les dettes. Et que deuxièmement, on empruntait à des taux négatifs il y a encore quelques semaines, on emprunte maintenant à 2%. Et quand on emprunte à 2% et qu'on devra rembourser à 2%, c'est là aussi quelques milliards. Donc à un moment, l'équation sera compliquée. Donc le gouvernement fait un effort conséquent, puisque le point d'indice avait été gelé depuis des années. Là, il est dégelé, mais tout de suite, il y a une revendication sociale dans la rue qui va être relayée par les parlementaires. C'est-à-dire qu'eux-mêmes diront, voilà, la rue l'a dit, donc on est dans la rue, on manifeste. Donc, il y a un moment où ça sera très, très dur sur tous les textes.
Il n'y aura pas de consensus, donc, ni du côté des syndicats, ni du côté des partis politiques.
Non, je ne pense pas. On pourra pas. Alors, il faudrait ouvrir des négociations salariales pour la fonction publique. Cela, c'était décidé un peu sans discussion. On a dit, voilà, on augmente, on dégèle.
3,5, voilà.
Donc, il faut des négociations. Donc, c'est à chaque fois du blocage, du temps long. Et c'est comme ça, peut-être, que le pays va fonctionner un peu au ralenti pour les 5 ans qui viennent.
Jean-Sébastien Ferjou, sur ce consensus qu'on peut trouver ou pas ?
Je crois qu'il y a une envie d'en découdre un peu, effectivement, de la part des syndicats. Et on l'a vu avec la CGT qui a annoncé le blocage des terminaux méthaniers et gaziers, me semble-t-il, au port du Havre, ce qui va empêcher de remplir les stocks et ce qui fait que ça risque d'accentuer très clairement les difficultés d'approvisionnement que nous connaîtrons à l'automne ou à l'hiver prochain. Donc si la CGT en est là sur un sujet aussi essentiel que celui-là, pour d'ailleurs, on ne parle même pas du fait d'avoir chaud ou froid, hein, mais pour le maintien de l'économie française et de l'industrie, parce que ce sont eux les premiers à consommer justement en général le gaz qu'on importe. Donc oui, ça va être difficile. Maintenant, je pense qu'on va être dans une phase où justement, c'est là où on va voir la différence entre les magouilles ou la construction politique constructive. Parce que vous pouvez toujours avoir des gens qui vont jouer le rapport de force à leur avantage. Parce que quand il n'y a pas de majorité, justement, vous avez besoin de celui qui vient faire la pointe. C'est tout, d'ailleurs, parfois le vice de système, la proportionnelle intégrale. Hein. Regardez ce qui se passe en Israël, notamment, avec parfois des coalitions où deux députés, en l'occurrence, dans le dernier gouvernement, il y avait deux députés islamiste, le gouvernement en avait besoin pour se maintenir, ça donne une énorme prime justement aux minorités qui sont en situation faire la différence. Donc on pourra peut-être voir des configurations comme ça, parce qu'il y a les majorités politiques, mais derrière il y aura les majorités sociales en quelque sorte, et de gens qui sont au point de pivot et qui auront un poids énorme, sans que fondamentalement ça respecte peut-être ce qui serait le centre de gravité de l'ensemble des Français.
Ça va être rock'n'roll les prochains mois, Maître Golnadel.
Ah oui, mais...
Rock'n'roll.
Franchement, je ne veux pas du tout être apocalyptique, mais la situation m'inquiète, elle ne m'inquiète pas seulement dans l'hémicycle. Elle m'inquiète dans la rue, et encore une fois, Monsieur le maire vient de découvrir en l'espace d'une semaine que la situation économique et financière était difficile. On nous a bercés d'illusions, enfin...
Pour ceux qui aiment rêver. Vous n'êtes pas.
Il y a toute une partie des gens qui le croient. Mais donc les gens ont été bercés d'illusions pendant 6 mois, argent magique, comme a dit Monsieur Pouponi, je ne sais plus quelle était son expression. Mais je crains que effectivement beaucoup de choses se passent dans la rue en septembre.
Une petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot sur Europe 1 et CNews.
L'État fautif de ne pas avoir stocké assez de masques avant l'épidémie de Covid-19. Décision du tribunal administratif de Paris. Début 2020, le flou a régné sur le sujet. La justice estime par ailleurs que l'État a commis une faute en tenant des déclarations qui ont pu dissuader la population d'avoir recours au port du masque. Prolongation de la détention de Cédric Jubilard requise, décision de l'avocat général devant la cour d'appel de Toulouse. Un juge des libertés et de la détention avait ordonné le 13 juin un maintien pour 6 mois. Le peintre plaquiste de 34 ans clame son innocence. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. Joe Biden à Madrid dans le cadre du sommet de l'OTAN. Il débute aujourd'hui avec des enjeux considérables concernant l'Ukraine mais aussi la Chine. Les États-Unis annonceront demain un renforcement à long terme de leur engagement militaire en Europe. Le président américain échangera aussi avec son homologue turc sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de la sécurité, peut-être un sujet sur lequel on y aura un consensus à l'Assemblée nationale. On verra ça dans un instant. À tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
De retour sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, consultant CNews, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, François Pupponi, ancien parlementaire, et maître Gilles-William Golnadel. On parlait des inquiétudes pour la rentrée sociale explosive, d'autant qu'il y a une nuage noire qui s'accumule sur l'économie française, hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, flambée des prix. Pourtant, le président Macron trouve des raisons de rester positif. Écoutez-le.
La France est un des pays d'Europe qui a le moins d'inflation. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place des boucliers sur le gaz et l'électricité qui empêchent qu'il y ait un trop gros impact sur les ménages et les entreprises. Je le dis parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais d'ores et déjà, nous avons dépensé plusieurs dizaines de milliards d'euros pour maintenir les prix. Mais il faut qu'on soit lucide. Cette inflation, ce n'est pas une inflation qui est liée à une surchauffe de notre économie. Non, l'inflation classique, c'est ça. C'est un impôt de l'extérieur qui vient par le gaz et l'électricité.
Est-ce que, Karim Zerebi, c'est audible, en fait, de dire la France est un des pays où il y a le moins d'inflation ? Est-ce que les Français qui sont dans la difficulté peuvent entendre ça ?
Plusieurs remarques. C'est pas faux, ce que dit le président. Mais c'est un discours qui est un discours de technocrate. C'est un discours qui dit on a pris des mesures techniques pour effectivement alléger la crise, atténuer la crise qui a frappé l'ensemble des pays de l'Union européenne. OK, très bien. Moi, j'ai envie de dire une chose quand même sur le pouvoir d'achat. Avant l'inflation, les Français allaient déjà mal en termes de pouvoir d'achat. Beaucoup s'interrogeaient à quoi bon se lever le matin alors qu'on a des fins de mois qu'on n'arrive plus à boucler. 15 mois, on est à découvert, on a perdu des classements, donc on n'arrive pas à vivre, on ne fait que survivre. Ça, c'était avant la crise. L'inflation est venue surenchérir, accentuer, aggraver la situation. Donc on peut faire un chèque par-ci, un chèque par-là. Il ne faut pas en vouloir aux Français, qui étaient déjà dans une posture de souffrance et de détresse, de considérer que ça n'est pas assez. On ne peut pas leur en vouloir. Et effectivement, là, il y a plus une approche structurelle qu'il faudrait mettre sur la table pour dire, voilà, est-ce que notre modèle aujourd'hui, donc, tel qu'il est, est viable, peut nous permettre de faire face à la crise, ou est-ce qu'on va essayer de colmater les brèches? Après, on peut faire des reproches au gouvernement sur la gestion de la Covid et les milliards qui ont été posés sur la table. Force est de constater que si on n'avait pas aidé un certain nombre d'activités et de professions, peut-être qu'on serait dans une situation qui serait encore plus catastrophique sur le plan social. Donc, nul ne le sait, mais beaucoup ont dit à l'époque, il faut quand même être reconnaissant. Si sur le plan sanitaire, on n'a pas fait les choses de manière parfaite, sur le plan de la gestion de la crise économique, le gouvernement a été là. Donc, on ne peut pas dire tout et son contraire. La réalité, c'est que moi, je considère que les Français considéreront qu'on n'en fera jamais assez. Et c'est là où on aura un quatrième tour donc social. Parce que la souffrance est telle, le retard est tel, l'inquiétude est tellement marquante qu'ils seront dans la rue quoi qu'il en soit. Et on peut prendre une mesure de chèque par-ci ou de chèque par-là, ça ne suffira pas. Et je peux vous dire que les Français qui touchent le SMIC et qui souffrent, on peut les comprendre aussi et se mettre un peu à leur place.
Jean-Sébastien Ferjou et ensuite Maître
Golin. Avec ce point-là, je suis entièrement d'accord. Mais pour prendre une image, quand on dit on a très bien géré le Covid, je ne vous parle pas de sanitaire, je vous parle de la gestion économique. Enfin, oui, on peut décider d'éteindre un incendie en vidant toute la piscine et se dire peut-être que vider le pédiluve aurait suffi à éteindre l'ampleur de l'incendie en question, parce qu'on n'a rien contrôlé justement sur l'emploi des milliards en question. Et c'est ça aussi que nous payons aujourd'hui. Parce que quand on a fait des confinements dont on savait qu'ils n'avaient pas d'efficacité sanitaire, parce qu'on a refermé des commerces non essentiels qui n'étaient pas des lieux de contamination, ça a coûté plusieurs dizaines de milliards.
Après coup, croyez-vous c'est facile qu'on en aurait... cette analyse.
Non, mais c'était pas après coup. Non, pardon, Karine,
Sur le moment, personne ne disait rien.
À l'échelle de la planète, vous le savez, s'il vous plaît, monsieur Ferjou, et un certain nombre d'économistes le disaient aussi, parce qu'ils avaient analysé les conséquences du premier confinement. Mais comme en France, justement, on a un Parlement qui exerce assez peu ses missions de contrôle, ces questions-là, on ne les pose pas du tout parce qu'on ne contrôle pas l'action de l'exécutif. En revanche, sur ce que disait Emmanuel Macron sur l'inflation, je comprends totalement ce que dit Karim sur effectivement le besoin des Français les plus fragilisés face à cette inflation. Mais malgré tout, dans l'analyse qu'il fait, je le rejoins et je suis plutôt rassuré qu'il dise ça, parce que c'est effectivement une inflation. Il emploie le terme d'impôt extérieur. C'est ça. C'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine et c'est parce qu'il y a les goulets d'étranglement du Covid. Oui, mais c'est très important parce que découle de ça les décisions de politique économique qu'on en prend. Ça n'est pas la même chose de gérer une inflation comme celle qu'on a connue dans les années 70 que de gérer une inflation qui est uniquement d'origine extérieure. Parce que si on commet les mêmes erreurs que celles qu'on a déjà commises, notamment en 2009, en augmentant massivement les taux, on va en plus aggraver les risques de récession. Donc je préfère un président de la République qui fasse le bon diagnostic que parfois des gens qui n'y comprennent
rien. On continue ce débat qui est passionnant. On va juste aller à l'Assemblée nationale rejoindre Florian Tardif, parce que je crois que ça y est, Madame Braun-Pivet, Yaël Braun-Pivet, donc, était élue présidente de l'Assemblée nationale. Avec combien de voix, mon cher Florian ?
On est en train d'obtenir le détail précis, Laurence, du nombre de voix récoltées par Yaël Braun-Pivet, mais c'est historique, il est vrai. C'est la première fois de son histoire que l'Assemblée nationale sera présidée par une femme, en l'occurrence donc Yaël Braun-Pivet, âgée de 51 ans, qui était encore novice en politique en 2017 et qui avait été propulsée à la tête de la commission des lois lors de la précédente législature. Elle avait été ministre éphémère des Outre-mer ces dernières semaines avant de quitter son poste pour pouvoir justement candidater à la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous parlais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être jusqu'à 3 tours pour pouvoir désigner Yaël Braun-Pivet comme étant la prochaine présidente de l'Assemblée nationale. Cela a été plus rapide que prévu finalement, puisque les députés du Rassemblement national n'ont pas souhaité prendre part au vote lors du second tour du scrutin. C'est pour cela que Yaël Braun-Pivet a été élue donc au terme de ce second tour. Au-delà de ce retrait, de cette décision des députés du Rassemblement national, ce qu'il faut analyser, c'est également le message envoyé de la part des députés du groupe RN ici à l'Assemblée nationale, qui souhaitent, vous l'avez compris, continuer cette tentative de dédiabolisation du parti en montrant qu'ils seront ces prochaines années une opposition responsable ici au Palais Bourbon.
Merci Merci Florian Tardif avec Charles Baget et Noa Pradel à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'élection d'Yaël Braun-Pivet, présidente, première femme présidente de l'Assemblée nationale. On revient sur notre débat sur l'inflation avec le président Macron qui disait on a l'inflation la moins haute d'Europe. Maître Golnadel, je vous ai entendu et vu réagir.
Comme mon ami Karim dit que c'est facile de dire après, moi, pardon, je ne suis pas un économiste très distingué, mais je l'appelais déjà il y a 3 mois ou même avant Emmanuel Lebel, parce que comme Philippe du même nom, il a utilisé la fausse monnaie. Ce qu'on appelle l'argent magique. Il ne fallait pas sortir des grandes écoles d'économie pour savoir que cette dette abyssale, historique, abyssale, elle existait déjà avant le Covid. Monsieur Macron s'était engagé à la résorber, il ne faut quand même pas oublier. Maintenant, elle est... Bon, donc, la hausse des taux d'intérêt n'est que la réaction un peu désespérée des banques à cette situation-là, mais qui transcende évidemment la situation française. Donc, je suis désolé, on ne peut pas uniquement expliquer la situation inflationniste uniquement à l'aune de la guerre en Ukraine ou d'autres choses également. Il y a une part de responsabilité. Et pardon de le dire, je suis pas dans le... Il ne faut pas non plus donner dans le misérabilisme de la situation des Français.
Misérabilisme.
Elle devient...
Il faut être déconnecté pour dire ça. J'ai oublié à mon ami. Non. Je te le dis. Oui. Non, là, faut... Le misérabilisme.
Oui, oui. Alors allez-y, terminez votre pensée. Oui, oui.
Avant, en compte ce que tu dis.
Non, chaque mot est du...
Comment on vit avec 1200 euros par mois aujourd'hui dans notre pays Tu peux me le dire?
Non, parce que
tu ne les touches pas.
Non, mais chaque
Et moi non plus.
Chaque mot est dûment pesé. Avant la situation inflationniste, on ne peut pas dire que la France était un pays misérable. Ça n'est pas vrai. C'est l'inflation. C'est l'inflation qui inquiète. À juste titre.
Il y avait un problème de pouvoir d'achat avant l'inflation. Il y avait les Français qui avaient des déclassements avant l'inflation. Mais je ne peux pas tout mettre sur l'inflation.
Mais que les Français n'y arrivaient pas avant.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'avant c'était extraordinaire. Je vous dis que ce qui est le plus préoccupant sur le plan économique pour les gens et notamment pour les plus pauvres, c'est la situation inflationniste. Parce que vous passez.
Elle est venue aggraver une situation.
Elle est venue.
Et qui était déjà grave. C'est comme la Covid et l'hôpital. C'est comme si tu me dis la Covid, l'hôpital va mal à cause de la Covid. Non, l'hôpital allait mal avant la Covid. Et la Covid aggrave.
Mais.
C'est pareil.
Mais oui, mais on est d'accord. Mais on passe de la pauvreté à la misère à cause de l'inflation.
Ah, mais c'est bien que tu reconnaisses déjà qu'avant l'inflation, il y avait la pauvreté.
Mais bien sûr.
Mais c'est pas réjouissant pour un peuple de vivre dans la pauvreté.
Il ne m'avait pas échappé qu'il y avait des pauvres en France.
Tu le conçois quand même.
Il ne m'avait pas échappé qu'il y avait des pauvres en France.
Donc c'est ça le problème.
Je suis en train de dire que la misère qui s'installe, elle est le produit de l'inflation et je n'accepte pas d'acquitter complètement le gouvernement français de cette situation en mettant ça sur le dos de M. Poutine.
Bien sûr, mais sauf qu'aujourd'hui, les Français, les plus en difficulté, ne peuvent plus rouler, ne peuvent plus se chauffer.
Bien sûr.
Bon. Et effectivement, le président Macron a dit quelque chose de très juste. Il a dit, on a fait un effort conséquent de plusieurs milliards et ça ne se voit pas. Enfin, malgré l'aide, les Français n'y arrivent pas quand même. Donc il reconnaît même. Il dit ce qui est fait est quasiment inaudible et pas perceptible par les Français, parce que malgré l'aide, ils n'y arrivent pas. Bon, regardez le prix à la pompe. Voilà, aujourd'hui, et on n'est pas dans l'hiver, quand on va y arriver, il y a des Français qui ne pourront pas se chauffer. Voilà, dans un pays qui n'est pas un pays pauvre, qui est un pays développé, parmi les plus développés. Et donc, la situation, elle est insupportable. Elle l'était déjà avant, mais là, les gens, ils ne peuvent plus. Et donc, la vraie question, c'est comment on fait ? Parce que là, on est parti sur un temps long pour remettre du pouvoir d'achat aux Français avec des sommes que nous n'avons pas. Et l'équation, elle est quasiment impossible.
Non, mais on peut avoir un discours de technocrate. Concrètement, ça fait à peu près entre 60 et 70 euros l'augmentation qu'a évoquée M. Stanislas Guérini par fonctionnaire. Donc, c'est même pas un plein d'essence, qui est aujourd'hui entre 90 et 100 euros.
Bon.
Pour n'importe quelle voiture et pas une voiture de luxe. Donc, ça veut dire que quand on dit aux Français qui souffraient déjà avant la crise, qui n'en peuvent plus aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de même pas faire un plein d'essence, mais c'est une augmentation et elle est historique. Comment veux-tu effectivement que ce soit pris ? On ne peut pas faire des sauts périlleux et dire c'est magnifique, ce qui se passe est historique. Donc ça veut dire que... Et là, on parle de la pompe, on parle des produits de première nécessité au supermarché, on arrive à une période qui est celle des vacances, où la moitié des Français ne partaient pas en vacances avant. Peut-être que là, ça va être les trois quarts. Cette réalité-là... Oui. On est obligé d'y faire face.
Mais c'est bien.
Pas faire comme si elle
n'existait pas. Mais c'est bien au nom de cela que je disais que si vous n'avez pas une saine gestion de l'économie, un peu comme une saine gestion d'un foyer, vous finissez par...
Ok, mais il y a des urgences à gérer.
Monsieur le maire,
comment tu gères les urgences ?
William, si demain on a une saine gestion de l'économie, on ferme les robinets.
C'est trop tard. Non, mais je ne dis pas le contraire.
Ils sont ouverts encore, les robinets.
Mais moi,
Je
crois qu'une saine gestion de l'économie, ça n'est pas l'austérité. Ça a été, il y a eu un certain nombre d'études économiques qui ont montré que l'austérité, ça n'avait aucun sens dans les périodes justement où on flirte avec la récession. Pour autant, là où je rejoins William Gonadès, c'est que évidemment, et c'est là où on va voir la question du blocage de l'Assemblée, parce qu'on peut aider les Français, bien sûr, et rajouter des chèques, mais derrière cet argent-là, il faut bien le trouver quelque part, et encore plus à un moment où les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, la charge de la dette, elle augmente. En l'état, elle est tenable. Un peu plus, ça ne le sera
plus. On est à 3 000 milliards, c'est tenable.
Il ne faut pas sous-estimer les risques d'explosion de l'euro avec, encore une fois, les différentiels qui sont en train de s'installer sur les taux d'intérêt allemands ou italiens ou français, puisque chacune de ces dettes-là peut représenter un risque différent aux yeux de ceux qui achètent de la dette, puisque la dette est aussi un produit financier. Il y a des gens qui achètent de la dette. Mais... ça nous mènerait ailleurs. Mais je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion sur où pouvons-nous faire des économies en France. On ne peut pas tenir un discours partout. Mais nous ne sommes pas à l'os partout, Laurence. On augmente tous les ans le budget du ministère de l'Éducation nationale. On augmente tous les ans le budget justement consacré à l'hôpital public en France. La France, c'est celui des pays de l'OCDE qui consacre le plus de sa richesse nationale à l'hôpital public. Est-ce que l'hôpital public fonctionne bien ? C'est donc bien qu'il y a une mauvaise gestion. Le sujet, c'est pas rajouter des euros. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on obtient par euro investi. Et s'il n'y a pas cette réflexion-là qui accompagne la réflexion sur le pouvoir d'achat, ça ne tiendra pas. Parce que au bout du bout, de toute façon, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Il faudra faire payer des impôts aux autres pour les... Admettons qu'on dise on ne fait pas 70 euros d'augmentation en moyenne pour un fonctionnaire, mais 700. Il faudra bien prendre l'argent quelque part. Ça n'échappe à personne, donc ça veut dire que...
François Pupponi.
On les connaît, mais personne n'a le courage politique de les mettre en œuvre.
Monsieur Pupponi, et ensuite Karim.
On peut bien sûr empêcher de recruter des fonctionnaires, etc. Mais ça, c'est sur le temps long.
Mais ce n'est pas seulement ça.
Non, mais d'accord.
Je ne parle pas du nombre de
fonctionnaires. Les minima sociaux, les comptes sociaux,
notamment.
On n'a plus, on paye moins. Dans la situation actuelle, je pense pas que ce soit très tendance. Et le gros bloc des collectivités locales. L'État donne 80 milliards d'euros tous les ans aux collectivités locales. Et on peut dire là, on dit stop, on dit aux collectivités locales, vous vous débrouillez, nous vous êtes plus. Bon. Voilà, donc on les connaît les grands comptes. Ils sont, mais qui aura le courage de dire, un, on baisse les minima sociaux?
Mais qui aura le courage de dire...
Les collectivités locales, elles se débrouillent.
Mais qui aura le courage de dire à l'hôpital public, il y a entre 2 et 3 administratifs par soignant, alors qu'il y a des hôpitaux privés, des cliniques privées dans ce pays où le ratio est de 1 pour 1. Est-ce que vous avez l'impression que les cliniques sont toutes au bord de la faillite, que les infirmières sont toutes en train d'en démissionner? Non, parce qu'ils sont bien gérés. Je vous dis pas qu'il faudrait tout privatiser, c'est absolument pas l'idée. Je vous dis juste que nous ne pouvons pas faire l'économie des gaspillages qui existent dans la quasi-totalité des administrations françaises. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Largement plus du côté des collectivités territoriales que du côté de l'État, parce que l'État a plus ou moins fait l'effort alors que les collectivités territoriales ne l'ont pas fait du tout. Mais on ne pourra pas faire abstraction de cette réflexion-là, parce que sinon ça se retournera contre justement les Français les plus défavorisés, parce que quoi qu'il arrive, Karim, de toute façon les riches ils s'en sortent dans toutes les situations.
Karim Zeribi, et après Maître Gonadel.
Je ne suis pas convaincu pour les autres
par ton analyse qui consiste à dire il y a des économies à faire, faisons-les. Ok, très bien, mais tu dis pas vraiment où. Après, dire que le privé gère toujours mieux que le public, c'est pas vrai. Je veux dire, la pénurie d'infirmières et d'aides-soignantes, elle est publique, elle est privée, elle est même dans le libéral. Mais si, évidemment qu'elle est publique, elle est privée. Mais c'est la vérité.
Mais
non, c'est faux ce que tu dis.
Dans le privé, il y a une pénurie qui est globale.
Pourquoi ? Parce qu'au-delà du public et du privé, le métier n'est plus attractif. On ne paye pas assez les gens dont on qualifie les métiers comme essentiels. Et je vais te dire, moi, je veux bien qu'on dise... Oui, mais c'est une vraie réflexion aujourd'hui. Donc, un gardien de la paix qui est essentiel à la République.
Et ayons moins de profs qui ne sont pas devant des élèves. Parce qu'il y a énormément de professeurs
Un gardien de la paix qui représente le gros des fonctionnaires de police est mal payé. Une aide-soignante et une infirmière n'est pas suffisamment payée. Un enseignant, quand il débute, au regard du nombre d'études, donc c'est la même chose. Donc, moi, je veux bien sûr qu'en termes de management, on peut enlever des administratifs mais la réalité, c'est qu'on a des besoins tels.
Juste un exemple.
Juste qu'on écoute un tout petit mot de Yaël Braun-Pivet qui vient d'arriver présidente de l'Assemblée nationale. Un tout petit mot et on revient.
Qui s'est forgé en ce lieu à nul autre pareil. Des voix fortes résonnent dans ces travées. Ce sont les voix de ceux à qui nous devons de vivre dans un pays libre. Ce pays qui eut l'ambition jadis de livrer au monde un message dont vous êtes aujourd'hui les garants. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En me portant à votre présidence, vous donnez aujourd'hui à ce message une portée nouvelle. Je veux donc vous remercier, toutes et tous, élus au suffrage universel, direct, qui accomplissaient ce geste fort. Plus nécessaire que jamais, sans doute, tant l'époque que nous vivons est lourde d'incertitudes et de questionnements. Permettez-moi, pour commencer, d'avoir une pensée pour les autres candidats qui souhaitaient eux aussi occuper cette fonction. Je salue en particulier Annie Genevard, qui fut une excellente vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Voilà pour les premiers mots de Yaël Braun-Pivet, qui a donc été élue présidente de l'Assemblée nationale, première femme à accéder à ce poste. Allez, un dernier mot sur notre discussion, sur la façon dont on peut faire des économies ou pas sur certaines administrations. Non, mais vous avez beaucoup parlé, Jean-Sébastien Cardoux.
Mais juste un mot pour répondre. La Cour des comptes a constaté plus 37% de masse salariale au ministère de l'Intérieur, moins 24% de présence sur le terrain. S'il n'y a pas un sujet de productivité et de management...
Maître Golnadel et pour terminer...
Je suis convaincu qu'il existe une gabegie du service public et qu'en contrepartie, eh bien, ce service public ne donne largement pas satisfaction aux Français. Il y a quand même une contradiction énorme. Un symbole que j'ai à cœur. Aujourd'hui, l'audiovisuel du service public est en grève.
Protester contre la suppression de la redevance.
Pour protester contre la suppression de la redevance fiscale. Chaque année, pratiquement, rituellement, la Cour des comptes conteste justement cette gabegie dans l'audiovisuel de service public. J'ai l'impression que dans le privé, on fait davantage attention à l'argent des gens. Et la remarque entre les cliniques et les hôpitaux de Ferjou est parfaitement justifiée.
Bien sûr qu'on fait des économies, bien sûr qu'il y a de la gabegie, mais il faut taper dans les grandes masses. Quels sont les services publics que les Français accepteraient de voir supprimer?
Mais personne ne dit qu'il faut les supprimer.
Mais bien entendu, mais vous ne pourrez pas faire des économies de masse si à un moment vous ne supprimez pas des services. Je prends un exemple. Quel intérêt de garder des sous-préfectures? Quel intérêt de garder un contrôle de l'égalité de l'État? Il y a des élus qui sont élus, qui votent, et puis après, il y a des fonctionnaires de l'État qui vérifient s'ils ont bien rempli le bon formulaire. Voilà. Et donc, il y a des fonctionnaires qui amènent un imprimé à l'autre. Oui. Voilà. Donc, à un moment, on dit, OK, tout ça, on supprime. Ça date de Napoléon, on n'en veut plus. Les routes. Voilà. Est-ce qu'il est normal de garder des cantonniers de l'État, des cantonniers des collectivités locales, plus ou moins sur les mêmes tronçons? Allez, top. Mais ça veut dire, on supprime l'électricité. Il y a des villes qui disent, la nuit, il n'y aura plus d'électricité. Voilà. On fait des économies, parce que ça coûte cher. Après, on dit, ah oui, d'accord, mais la sécurité, voilà. On peut faire des économies, mais sur les grandes masses. Le logement, je finis sur le logement. Le logement, ça rapporte 80 milliards, mais ça en coûte 40. Et quand on a dit on va baisser les APL parce qu'on va faire des économies, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de baisser de 5 euros? Voilà. Mais 40 milliards, bah oui, on peut faire la moitié d'économies.
Les APL,
je vais aller sur le terrain de Jean-Sébastien Ferjou et de J. William Golnadel. Gabji, on fait des économies. OK. La réalité, c'est que vous ne pourrez pas vous en tenir à ces économies. Pourquoi? En réalité, c'est un transfert qui sera fait pour avoir plus de proximité, plus de gardiens de prison, plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes, plus de gardiens de la paix. Donc ton économie, tu l'as.
Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et tout de suite c'est Clélie Mathias qui vous attend sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Pour la première fois en France, une femme va présider l'Assemblée nationale. Il y a une Braun-Pivet qui vient de l'emporter.
Une augmentation générale de 3,5% pour les fonctionnaires. Elle entre en vigueur dès vendredi. Plus aucun agent public ne touchera le SMIC. Dans ce journal, le coup d'envoi du sommet de l'OTAN à Madrid, les Occidentaux unis pour l'Ukraine face à la Russie et le lancement du timbre numérique en 2023. 2023. Et puis aussi plusieurs joueurs qui auraient eu le Covid à Roland-Garros sans le dire. Déclaration choc d'Alizé Cornet.
La tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Alors retour au calme en Provence-Alpes-Côte d'Azur après les orages diluviens de cet après-midi. Il fera beau et chaud sur une grande partie du pays demain, sauf à l'ouest avec l'arrivée d'une perturbation peu active qui va apporter des nuages et quelques pluies. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1. C'est la journée des premières dans l'hémicycle, première séance de la nouvelle Assemblée et à sa tête une femme.
Et oui, sans surprise, Yaël Braun-Pivet, la candidate de la majorité présidentielle, montera au perchoir. Les jeux sont faits, Victor Chabert.
Oui, Hélène, Yaël Braun-Pivet, 51 ans, éphémère ministre des Outre-mer, vient d'être élue au second tour présidente de l'Assemblée nationale. Le député doyen de l'hémicycle vient de l'annoncer.
Madame Yaël Braun-Pivet, 242 voix. Madame Yaël Braun-Pivet, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
Yaël Braun-Pivet, qui est en train de prendre la parole actuellement, voici ses premiers mots.
Mes chers collègues, personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion, sans ressentir l'histoire dont ces murs sont empreints, l'histoire de la République, qui s'est forgée en ce lieu à nul autre pareil. Des voix fortes résonnent dans ces travées. Ce sont les voix de ceux à qui nous devons de vivre dans un pays libre. Ce pays qui eut l'ambition jadis de livrer au monde un message dont vous êtes aujourd'hui les garants. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Elle est la première femme donc à occuper ce poste. Yaël Braun-Pivet, marcheuse de la première heure, élue députée en 2017, s'est révélée au grand public alors qu'elle présidait la commission des lois de l'Assemblée nationale durant ces 5 dernières années. Cette première séance a également été marquée par le discours introductif de celui qui l'a présidé, le doyen de l'hémicycle, José González, 79 ans, député RN des Bouches-du-Rhône, qui a évoqué ses origines pied-noires et l'Algérie française.
Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas.
Des propos qui ont fait bondir la gauche. Autre polémique de l'après-midi, l'un des benjamins de l'Assemblée, le député insoumis Louis Boyard, secrétaire de séance, comme le veut le règlement, n'a pas souhaité serrer la main au député Rassemblement National lorsqu'il montait au perchoir pour voter. Entre les deux formations politiques, la bataille commence.
Victor Chabert, en direct de l'Assemblée. Quant à Elisabeth Borne, elle continue ses consultations avec les présidents de groupe. Ce matin, le LR, Olivier Marleix, s'est dit opposé à une coalition, mais d'accord pour travailler avec la majorité sur certains textes, comme le pouvoir d'achat. En ce moment, c'est le socialiste Boris Vallaud qui est reçu à Matignon avant les représentants des Verts, Julien Bayou et Cyrielle Chatelain.
Elisabeth Borne qui vient de féliciter pour son élection Yaël Braun-Pivet. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, un geste en direction des fonctionnaires, finit le de leur point d'indice.
Oui, dès vendredi le 1er juillet, ils auront droit à une augmentation générale de 3,5%. Ça concerne 5 700 000 agents publics et c'est la plus forte hausse depuis 1985, Élise Dangean.
Et oui, c'est du jamais vu depuis 37 ans et cette revalorisation devrait permettre, selon le ministère, que plus aucun agent ne soit rémunéré au niveau du SMIC, ce qui était le cas de près de 700 000 fonctionnaires, notamment à cause de l'inflation. Par ailleurs, le point d'indice, qui sert de base au calcul de la rémunération des agents publics, n'avait pas été revalorisé depuis février 2017. À cette augmentation générale s'ajoutent 4 mesures complémentaires pour soutenir le pouvoir d'achat des agents, notamment l'élargissement du forfait mobilité durable ainsi qu'un coup de pouce salarial aux fonctionnaires de catégorie B en début de carrière. Le ministère prévoit également de revaloriser de près de 7% la participation de l'État au prix des repas servis aux agents en activité. Coût total de l'opération, plus de 7,6 milliards d'euros qui seront répartis entre l'État et les collectivités.
Bien, mais peut mieux faire, c'est la réaction de Christian Grolier, numéro 1 de la Fédération Générale des Fonctionnaires de FO.
c'est une bonne nouvelle dans le sens où enfin nous obtenons une mesure générale pour les fonctionnaires, qu'on soit en catégorie C, B ou A, tout le monde pourra compenser malheureusement que partiellement l'inflation. Et c'est pour ça qu'en même temps, c'est pas une bonne nouvelle, puisque le ministre lui-même, M. Guérini, nous a dit aujourd'hui que l'inflation sur un an était de 5,2%. Et il ne propose que 3,5. Et on est loin du compte. Si vous voulez, les fonctionnaires, ils ont toujours ce sentiment que quand on a besoin d'eux, ils sont là. Ils ont été là sur des moments même très difficiles pour le pays. Et une fois de plus, au moment où on devrait enfin arriver à les rémunérer de manière normale, si je veux dire, ne serait-ce que pour pas qu'ils soient victimes de l'inflation, on n'arrive même pas à faire le pas supplémentaire. C'est vraiment regrettable.
Le secrétaire général de FO fonctionnaire.
L'Ukraine, au cœur des discussions des dirigeants occidentaux, ils veulent se montrer unis face à l'offensive russe.
Oui, on vous parlait hier dans ce journal de la frappe russe contre un centre commercial à Kremenchouk dans le centre de l'Ukraine. Bilan provisoire, au moins 18 morts, près de 60 blessés. Un crime de guerre selon les pays du G7. Vladimir Poutine se dit prêt à cesser les combats si les troupes ukrainiennes déposent les armes. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron lors de la clôture du G7.
Personne ne s'inscrit dans une fin de la guerre qui soit dans les prochaines semaines ou les mois qui viennent. J'espère, avec beaucoup de force, que l'issue peut être obtenue en fin d'année. Mais avec une certitude, une volonté, c'est que la Russie ne peut ni ne doit gagner. Quant aux propos du président Poutine, il clarifie ce que j'ai pu à plusieurs reprises dire, et ce qui a d'ailleurs marqué un point d'inflexion, et qui a levé une ambiguïté qu'il a longtemps lui-même entretenue au début du conflit, rappelez-vous, lorsqu'il y avait des négociations qui se tenaient, il donnait le sentiment qu'il voulait négocier. Maintenant, il est clair, l'agression lancée par la Russie sur le sol ukrainien a un objectif. La reddition de l'Ukraine. Ça ne s'appelle pas une négociation. Et donc nous continuerons de sanctionner la Russie, nous continuerons de soutenir l'Ukraine et son peuple pour obtenir soit une victoire complète de l'Ukraine, soit la possibilité dans des termes et au moment qui seront choisis par les Ukrainiens de mener la négociation qui sera la leur, à leurs conditions.
Emmanuel Macron au micro d'Arthur Delaborde.
Et le président qui vient d'arriver au sommet de l'OTAN qui s'ouvre à Madrid.
En attendant le coup d'envoi des travaux demain, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a parlé d'un sommet du tournant. William Molinier, vous êtes notre envoyé spécial. Qu'est-ce qui va en sortir ?
Eh bien, concrètement, c'est un document écrit que l'on appelle le concept stratégique de l'OTAN. Le dernier a été rédigé en 2010 à Lisbonne. Il faisait 40 pages. La Russie y était alors présentée comme un partenaire stratégique. Or, dans ce nouveau texte, Moscou va être clairement désignée comme un ennemi. Ce document va aussi remodeler la force de réaction rapide de l'OTAN. 40 000 hommes aujourd'hui. Ils passeront à plus de 300 000 soldats en alerte dans les pays membres prêts à être déployés en cas d'agression. Ce qui pose inéluctablement la question du financement. Les Américains souhaitent que les Européens mettent la main au portefeuille. Tout cela fait l'objet d'intenses négociations en coulisses. Tous les États membres ne sont pas à l'unisson, à l'image des tractations qui se jouent ce soir autour d'un éventuel élargissement de l'alliance à la Suède et à la Finlande. La Turquie menace de bloquer cette entrée avec son droit de veto. Emmanuel Macron veut être aux avant-postes de cette négociation qui s'annonce, de l'aveu même du Britannique Boris Johnson, comme difficile. Il est prévu que le chef de l'État français échange demain matin en personne avec le président turc Erdogan au cours d'un entretien bilatéral.
William Molinier en direct du sommet de l'OTAN à Madrid.
Allez, une petite pause Hélène et puis on va parler de ces 12 banques et pas des moindres accusées de ne pas rembourser leurs clients en cas de fraude. A tout de suite sur Europe 1.
Pain.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zellani. Hélène, 12 banques sont donc dans le collimateur de l'UFC Que Choisir.
Et oui, l'association de consommateurs a déposé plainte contre des banques bien connues comme la Société Générale, la Banque Postale, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, BNP Paribas ou le CIC, mais aussi contre des banques en ligne comme Boursorama, ING ou encore des néobanques comme Nickel ou Floa Bank, donc 12 au total, Maud Descamps, elles sont accusées de ne pas rembourser leurs clients victimes de fraude.
Oui, en fait, l'association de consommateurs a passé au crible plus de 4300 signalements de clients victimes d'une fraude et qui n'ont pas été remboursés par leur banque. On parle par exemple de quelqu'un qui se serait fait voler ses coordonnées bancaires. La loi est claire, votre banque doit vous rembourser le montant prélevé frauduleusement. Or, selon Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, les banques dupent leurs clients en leur faisant croire qu'ils sont fautifs.
Ce que l'on constate, c'est que les banques usent de pratiques commerciales trompeuses et de façon industrielle pour ne pas rembourser les consommateurs en les induisant en erreur. Le consommateur, on va l'accuser de négligence sans en apporter la preuve. La réglementation est très claire, elle dit que le consommateur qui est victime d'une fraude doit être remboursé systématiquement et immédiatement, sauf négligence de sa part.
Si vous êtes victime d'une fraude et que votre banque refuse de vous rembourser en vous accusant de négligence, sachez que vous pouvez lui réclamer la preuve de cette négligence. Il faut savoir que les fraudes bancaires sont en très forte hausse depuis 10 ans. Elles ont doublé. Cela représente 1,3 milliard d'euros prélevés frauduleusement chaque année sur les comptes en banque. Ce sont plus d'un million de Français qui en sont victimes.
Maude Descamps, c'était un symbole de la maison individuelle accessible à tous. Le constructeur des maisons Phoenix, le groupe Geoxia, est placé en liquidation judiciaire. Personne n'a voulu reprendre l'activité. Pour ce qui est des trois usines de l'entreprise qui fabriquaient elles-mêmes les dalles et les charpentes, elles obtiennent un sursis et vont pouvoir terminer les chantiers en cours grâce à un financement de l'État.
Oubliez le timbre à coller sur l'enveloppe. Dès l'an prochain, place au timbre digitalisé.
Kesako, eh bien, c'est la Poste qui décide de moderniser l'affranchissement du courrier et va donc proposer aux usagers d'utiliser un code de 8 caractères, chiffres et lettres, mode d'emploi avec Nathalie Collin, responsable du numérique à la Poste.
C'est très simple. Vous êtes dans la rue, vous avez besoin d'envoyer une lettre, un document. Eh bien, vous allez sur votre application, laposte.fr, et en 3 clics, vous allez télécharger un code. Ce code, vous allez tout simplement l'écrire sur votre enveloppe, en haut à droite. Et vous allez ensuite poster votre enveloppe. Et là, comme une lettre à la poste, elle va arriver. C'est très simple pour le client. C'est très compliqué d'un point de vue technique, puisqu'il faut à la fois de la cryptologie, de l'intelligence artificielle, pour être capable de générer en temps réel plusieurs millions de codes qui soient très peu fraudables, idéalement pas du tout. Et donc, on est la première poste au monde avec la poste suisse à lancer ce produit pour révolutionner le timbre.
Le timbre qui d'ailleurs restera en vente, rassurez-vous. C'était la responsable du numérique à la Poste au micro européen de Noah Moussa. Face à l'épidémie de Covid, l'État a commis une faute en ne prévoyant pas assez de stocks suffisants de masques. Décision du tribunal administratif de Paris qui en revanche n'établit pas de lien direct avec les contaminations de la trentaine de plaignants. Leurs demandes d'indemnisation sont donc rejetées. Par ailleurs, Elisabeth Borne recommande à son tour le port du masque dans les lieux clos et les lieux de promiscuité comme les transports en commun. Recommandation mais pas obligation.
Et du Covid, on en a parlé, Hélène, au tournoi de tennis de Wimbledon.
Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est la numéro 1 française, Alizée Cornet, tout juste qualifiée pour le deuxième tour, qui a abordé le sujet lors de sa conférence de presse d'après-match. Le moins qu'on puisse dire, Jean-François Pérez, c'est qu'elle a mis les pieds dans le plat.
Oui, on peut même parler de petite bombe. Alors, il y a 3 semaines, à Roland-Garros, la Tchèque Krejčíková, qui était tenante du titre, avait dû quitter le tournoi après un test positif au Covid. On craignait une hécatombe de forfait chez les joueurs, les joueuses. Elle n'est jamais arrivés. Et pour cause, selon Alizée Cornet, nombre d'entre eux et d'entre elles ont volontairement gardé le silence.
À Roland, il y a une épidémie de Covid, personne n'en a parlé, c'est juste qu'on l'a... Voilà, dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Donc voilà, on a 3 symptômes, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique, quoi. C'est...
Voilà, Alizée Cornet en conférence de presse à Wimbledon. Alors sachez qu'elle vient un petit peu de rétro-pédaler sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes en disant « J'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid sans avoir aucune preuve ». Ça sent quand même 2-3 coups de fil qui ont dû être passés entre-temps. La Fédération française de tennis qu'on a contactée n'a pas encore réagi. Bah, elle a peut-être passé des coups de fil. Enfin, en substance, Cornet estime qu'après 2 ans de protocole sanitaire très strict, le circuit du tennis a mangé son pain noir. Tout le monde est vacciné, dit-elle. Le Covid fait partie de nos vies, il faut faire avec. Elle établit même un parallèle avec les gastro-entérites qui n'entraînent pas de forfait malgré la contagion. Voilà des paroles d'une grande franchise mais qui risquent de faire des vagues ce soir et demain. Rappelons que depuis hier d'ailleurs, 2 joueurs ont déclaré forfait à Wimbledon après avoir subi des tests positifs, le croate Cilic et l'italien Berrettini.
Joli rétro-pédalage en tout cas pour Alizée Cornet. Merci Jean-François Pérez. Les autres résultats de Wimbledon: Nadal affronte en ce moment l'argentin Cerundolo. Il mène de 7 à 1 mais ils sont à 1 partout dans le 4e. Ça passe pour Hugo Gaston, le Français, premier succès de sa carrière dans ce tournoi, et pour Richard Gasquet, qualifié pour le 2e tour après un match de 3h30.
La météo avec Marlène Duret, demain retour du soleil dans les régions de l'Est.
Et oui, en tout cas pour le Sud-Est, ce sera plutôt bien puisqu'on a eu quand même des orages diluviens qui ont touché l'Est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, même effectivement dans le contexte de sécheresse, c'était bien. Mais bon, des orages diluviens, ça peut être quand même assez impressionnant. 60 mm tombés en 45 minutes hier, ça donne des rues ruisselantes. Et donc, on va retrouver un temps plus calme cette nuit, retour du soleil demain, donc
plus généralement à l'est. Et puis l'autre info météo, c'est la nouvelle perturbation qui va arriver cette nuit par la Bretagne. En matinée, elle va gagner la Normandie, les Pays de la Loire, les Charentes, la côte aquitaine. Ce sont des petites pluies fines et régulières. Et puis l'après-midi, cette perturbation atteindra les Hauts-de-France, les Yvelines, la Touraine, une partie de l'Aquitaine, l'ouest de Midi-Pyrénées. Et les pluies se feront plutôt sous forme d'averses. Des éclaircies perceront malgré tout. Et pour toutes les autres régions, ce sera du beau temps. Côté température, les maximales iront de 17 degrés à Brest jusqu'à 33 à Nîmes et Avignon, avec par exemple 22 à Rochefort, 26 à Lille, Paris, Bourges, Dijon, Nancy, 27 à Limoges et puis 29 à Ajaccio après le coup de chaud de ce matin, 37 degrés 2 à 7h10, ce qui est quand même assez exceptionnel.
Merci beaucoup Marlène Duret, merci Hélène Zellani. Dans un instant, les débats de Punchline, on reviendra sur l'élection de Yaël Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a le village de la France, dit-elle. Elle devra débattre plutôt que de se battre. On écoutera cette présidente dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec Amine El Khatmi, essayiste. Bonsoir Amine.
Bonsoir Laurence.
Alexandre Chauffeau du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon cher Alexandre.
Bonsoir Laurence.
Et Gilles Mintré, essayiste, mais aussi président d'Electis. Bonsoir Gilles Mintré. Les premiers mots de Yaël Braun-Pivet, la première femme à être élue présidente de l'Assemblée nationale. C'est un moment historique. Écoutons-la, elle estime que l'Assemblée a le visage de la France.
Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité. Celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens. L'espoir de nous voir sortir de ces querelles stériles que l'on nous a trop souvent reprochées, pour avancer ensemble au service de la France et des Français.
Voilà pour les premiers mots de Yaël Braun-Pivet. Victor Chabert, vous êtes à l'Assemblée nationale pour le service politique d'Europe 1. Une élection à deux tours pour cette élection d'une femme au perchoir.
Oui, alors Yaël Braun-Pivet a été élue au second tour à la présidence de l'Assemblée nationale. Hein, marcheuse historique, élue députée en 2017, elle présidait la commission des lois de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Yaël Braun-Pivet a également eu le portefeuille ministériel des Outre-mer, mais ce fut très rapide, presque éphémère. Elle n'a pas eu la majorité absolue en séance cet après-midi. Au premier tour, elle faisait notamment face à une candidate LR de la NUPES, RN. Sauf que Sébastien Chenu s'est retiré au second tour. Le député du Nord Rassemblement National, faisant ainsi baisser le seuil de majorité absolue. Et Yaël Braun-Pivet a été élue au deuxième tour. Alors les députés RN ne sont pas peu fiers de leur coup. Hein. Ceux que je viens de croiser vantent déjà une preuve de leur position constructive. Enfin, cette séance a été marquée par un premier affrontement entre le RN et la NUPES. Le discours introductif de celui qui l'a présidé, le doyen de l'hémicycle, José González, 79 ans, député RN des Bouches-du-Rhône, évoquait très ému ses origines pieds-noirs et l'Algérie française, des mots qui n'avaient pas leur place ici, selon la gauche qui bondit depuis quelques heures. Autre polémique de l'après-midi, l'un des benjamins de l'Assemblée, le député insoumis Louis Boyard, secrétaire de séance comme le veut le règlement, n'a pas souhaité serrer la main au député RN lorsqu'il montait au perchoir pour voter. La bataille s'annonce rude entre les deux formations.
Merci beaucoup Victor Chabert pour Europe 1 à l'Assemblée nationale. On commence par Yaël Braun-Pivet, Amine El Khatmi. Une femme, c'est une bonne chose. Après, voilà, va-t-elle pouvoir piloter ce bateau peut-être ivre qu'est devenu l'Assemblée nationale ?
Mais c'est deux sujets différents. Est-ce que c'est une bonne chose qu'une femme accède enfin à cette responsabilité ? Évidemment. Alors les rabat-joie diront oui, mais c'est que du symbole, c'est de l'ordre du symbole. Mais enfin, quand il y avait que des bonhommes à la queue leu-leu, les uns derrière les autres, ça ne dérangeait pas que le symbole soit pas présent. C'est bien parce que ça dit aussi, au-delà de Yaël Braun-Pivet, d'Elisabeth Borne, qui sont des femmes politiques qui ont déjà un certain parcours et qui n'ont pas besoin qu'on les encourage, ça dit aussi à toutes celles qui n'ont pas commencé leur vie, leurs études, des jeunes filles qui ont 14, 15, 16 ans, qui ce soir en famille vont regarder les actualités à la télévision et qui vont voir Yaël Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale. Alors, elles vont pas toutes se dire « je serai un jour présidente de l'Assemblée nationale », mais si ça peut simplement les convaincre que, bah oui, les femmes, elles ont, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de porte interdite. Il n'y a pas de responsabilité qui ne puisse être, par la force du travail, acquise. Et je trouve que le message est plutôt, positif.
Alors,
après, est-ce qu'elle pourra diriger l'Assemblée ? Ça, c'est
juste sur le fait que ce soit une femme, c'est
historique. D'ailleurs, je trouve qu'il y avait de l'émotion quand elle a parlé de cette première femme en 1848 qui voulait se présenter à l'Assemblée, à la tête de l'Assemblée nationale et qui avait été dû se retirer sous les colibets. Voilà, donc on voit bien que le temps qu'il a fallu, 150 ans, mais maintenant il y a une femme, on a une femme Premier ministre et je trouve que on découvre aussi un autre visage de la France parce qu'on est dans des heures assez graves où on voit des choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant sur un pays fracturé, mais on voit aussi un pays qui commence à donner maintenant plus de place aux femmes. Vous savez qu'on est juste derrière les pays scandinaves maintenant, la France, en termes de part des femmes parmi les élus. Alors, ce n'est pas encore assez, on n'est pas à la parité, il y a des choses à faire, mais enfin, on voit un nouveau visage, et je trouve que voilà, c'est un moment où on peut s'en réjouir.
Alexandre Chauveau.
L'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'était l'extrait le plus politique, mais en réalité, c'est vrai que c'était un discours assez personnel, enfin très axé justement sur l'égalité hommes-femmes. Elle a fait applaudir Annie Genevard, l'ancienne vice-présidente.
Alors ça, c'était assez politique.
Voilà, avec une arrière-pensée politique, mais tout de même, elle a une pensée pour Marielle de Sarnay, l'ancienne députée
Modem.
Décédée l'année dernière. Pour Simone Veil aussi, qui était juriste comme elle a cité la phrase notamment en novembre 1974, où Simone Veil, défendant son projet de loi sur l'IVG, avait dit « Je suis une femme et je parle devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes ». Elle a fait référence à sa famille, à sa mère qui était issue de la DAS, à sa fille, ses filles qui étaient, elle a 5 enfants et l'une de ses filles était présente en haut de l'Assemblée nationale. Donc voilà, aujourd'hui on a effectivement une première ministre à Matignon, Aurore Berger qui est présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et donc une présidente de l'Assemblée nationale femme.
Alors effectivement, là, la présence féminine est incontestable. Quel résultat ? On va voir ça dans un instant. On fait une toute petite pause sur Europe 1 dans Punchline. On se parlera ensuite de la capacité à gouverner le pays, à faire passer les réformes qu'ont ces femmes qui sont aux responsabilités. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
De retour dans Punchline sur Europe 1 avec Amine El Khatmi, essayiste, Gilles Mintré, essayiste, président d'Electis et Alexandre Chauveau d'Europe 1. Yael Braun-Pivet vient donc d'être élue présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit qu'il va falloir débattre plutôt que se battre. Parce que la vraie question, c'est ça, Amine El Khatmi. Est-ce que cette Assemblée-là va être capable de voter un certain nombre de réformes essentielles ? Il va y avoir la réforme des retraites, évidemment, la mère des batailles. Mais il y aura avant cela un projet de loi de finances rectificatives. Il y aura la loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y aura une possibilité de trouver un consensus et de diriger, encore une fois, ces réformes
pilotées ? Ça, c'est la grande inconnue, en réalité. Et la question, elle se pose à tout le monde. Ils sont tous confrontés à l'obligation de changer radicalement de mode de fonctionnement. De passer d'un système où il y avait une majorité absolue, qui n'en avait en réalité que faire de l'opposition, d'une opposition qui, par conséquent, était condamnée à faire de la figuration, du bruit et taper avec les pupitres le mercredi pour passer à la télé. Mais j'exagère à peine, et en réalité, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que la majorité est capable de prendre au sérieux le travail parlementaire ? Et donc, est-ce que l'exécutif va respecter les députés, tous les députés, et est-ce qu'une partie de l'opposition est prête à mener un travail constructif, c'est-à-dire à profiter de cette situation qui fait qu'il n'y a pas de majorité absolue pour mener un travail de négociation et de construction de la loi ? C'est les réponses à ces questions que dépendra la suite des événements.
Gilles Mintré.
Je pense qu'on est passé d'un moment de stupéfaction en se disant ça va être le chaos, a quand même la perspective que finalement le travail gouvernemental et parlementaire va avoir lieu, puisqu'on comprend quand même que, et d'ailleurs ça a été dit encore par Darmanin ce matin, qu'il y a quand même des fortes convergences entre En Marche et Les Républicains, que Olivier Marleix a dit pas de coalition, mais bien sûr on est d'accord sur même un programme de travail, pour y avoir un calendrier, donc on voit qu'il y a un certain nombre de réformes qui vont se faire, sur les retraites, peut-être sur l'école, sur la sécurité, enfin sur le pouvoir d'achat, hein, c'est le premier test. Moi j'ai envie de dire, la question, ce n'est pas tellement celle-là. On sent que ça ne va finalement pas bloquer ou pas tout de suite. C'est plutôt comment En Marche, et peut-être avec les Républicains, enfin en tout cas ceux qui vont voter ces lois, vont prendre en compte le fait que 3 Français sur 4 ont exprimé qu'ils n'étaient en désaccord avec le système institutionnelle telle qu'il existe. Entre les gens qui se sont abstenus, les Français qui se sont abstenus, et ceux qui ont voté pour le RN ou pour la NUP, qui chacun propose de changer complètement le système, il va falloir aller plus loin que simplement trouver des petits compromis pour voter les lois. Il va falloir repenser la façon dont on décide et on gouverne.
Alors sur le RN, Alexandre Chauveau, Gilles Maintré dit ils veulent repenser le système. On a pourtant l'impression, là, qu'ils veulent se fondre dans le système, qu'ils veulent incarner quelque chose qui est de la crédibilité et de la légitimité. Ils ne veulent pas casser le système et bloquer l'Assemblée, ils l'ont beaucoup dit.
Oui, c'est dans une sorte de miroir inversé avec la NUPES. Eux veulent effectivement faire gage de crédibilité. On l'a dit, mais ils sont arrivés tous en costume cravate, les femmes habillées en tailleur. Ils ont la volonté de proposer des amendements, de voter certaines lois, parce que ça a aussi beaucoup été reproché à Marine Le Pen pendant le débat, notamment face à Emmanuel Macron. Il n'a cessé de lui dire, mais vous étiez à l'Assemblée, mais vous avez voté contre le bouclier de pouvoir d'achat, vous avez voté contre toute une série de lois. Et là, le RN a cette volonté de ne pas tout bloquer, justement, contrairement à la NUPES. Et dans cette volonté de normalisation, le fait que le doyen de l'Assemblée nationale, José González, soit issu du RN, ça participe de cette volonté d'effacer le front républicain qui a nuit depuis toujours au Rassemblement national.
Amiel Katmi, ça a quand même commencé, là, les bisbilles avec le Rassemblement national, la France insoumise. Ça va complètement parasiter les débats ou pas? Ou ils sauront mettre ces différents profonds de côté?
Oh, ça dépend. Alors, quand on dit la NUPES, ça dépend de quelle NUPES on parle.
Parlons de la France insoumise, soyons clairs.
Voilà. Évidemment que si on prend des socialistes bontins comme Madame Rabault ou Monsieur Boris Vallaud, on ne les voit pas se monter sur les tables et se mettre à gueuler. Enfin, en tout cas, faire de l'obstruction exagérée. Évidemment, il y a une branche de la NUPES qui est une branche radicale. Louis Boyard, député du Val-d'Oise, David Guiraud, Obono, Garrido, enfin on les connaît, qui sont quand même pas enclins au dialogue, à la construction, qui vont être dans une volonté d'obstruction, dans une volonté, si je puis utiliser un terme un peu trivial, de bordélisation de la vie parlementaire. Et donc, évidemment, bordélisation qui sera d'autant plus accentuée qu'ils ne sont plus 17. Quand vous êtes 80, 90, comme le sont les LFI, vous avez...
90, c'est le RN.
C'est le RN. Donc 89, précis, c'est le 89, RN, vous avez raison. Oui. Mais votre temps de parole est multiplié, vos amendements sont multipliés, vos possibilités d'intervention sont multipliées. Et donc, évidemment, il est à craindre qu'il y ait de ce côté-là de l'hémicycle une volonté d'agitation, alors qu'en face, ça a été dit tout à l'heure, on va avoir un groupe RN. Alors ça commence mal, puisque le plus âgé d'entre eux a fait une sortie de route.
Oui, il a évoqué l'OAS, l'Algérie française.
Il va sans doute être recadré, mais les autres, la stratégie, ça va être pas un mot de travers, et on est sérieux et on bosse.
Gilles Maintré.
Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur les costumes cravates et les tailleurs des députés du RN. Le programme du RN est un programme de changement complet des institutions républicaines. C'est le grand discours entre les deux tours de Marine Le Pen sur sa république référendaire. Elle voulait soumettre directement la Constitution au peuple. C'est plus la Constitution, elle n'est plus réformée par le Parlement, elle est par le peuple. On met en place un référendum d'initiative citoyenne. Donc, toute chose sur laquelle il y a des choses intéressantes, des choses qui sont plus intrigantes, mais il y a une volonté de changer de régime, et qu'on retrouve de l'autre côté de l'hémicycle, hein, du côté de la NUP, parce que...
Ils veulent plus casser la Ve République à la NUPES qu'au RN.
Enfin, de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une constituante chez Mélenchon et il y a la réforme directe de la Constitution par le peuple chez Marine Le Pen. Dans les deux côtés, on va installer une République populaire, hein, dans laquelle, et une fois de plus, il y a derrière ça une intuition qui est juste, qui est le besoin d'une grande majorité de Français de s'exprimer plus et de décider plus. Maintenant, est-ce que c'est en cassant et c'est en réformant la Constitution de cette manière-là? Il y a matière à débattre. Mais comment on va prendre ça en compte? Et on voit bien que du côté de la NUP, c'est-à-dire le Parti Socialiste, le Gilet Vert, on s'est dit le jour de l'élection, ça y est, ils vont revenir. Ben, regardez, ils sont tous inclinés, premier exemple, à la Commission des Finances. Finalement, non, ça sera le candidat LFI, Éric Coquerel. Bon, on sent que Ils sont pris par LFI. Donc on va avoir ces deux groupes très violents, vraiment proposant une autre République, et puis au centre, Renaissance, les LR. Et si Renaissance et LR n'écoutent pas ce message et ne sont pas capables d'inventer quelque chose d'autre, on va aller à un clash très, très, très fort.
Alexandre Chauveau.
Je pense quand même qu'il y a plus de signaux envoyés de la part du Rassemblement national et de Marine Le Pen en faveur du fait de s'inscrire dans la vie politique actuelle et dans la participation à la vie politique, enfin, au fait qu'Emmanuel Macron gouverne plus que chez la NUP. Mais sur la volonté de bordélisation, je reprends l'expression, mais en mettant des guillemets, je pense que la France Insoumise et la NUP en général peuvent être entre guillemets les idiots utiles d'Emmanuel Macron qui dans 6 mois, 9 mois, 1 an peut prendre l'opinion à témoin en disant regardez c'est impossible de gouverner dans ces conditions là, j'ai proposé un projet de loi sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur les retraites, ça passe pas. Et dans ce cas-là, légitimer une potentielle dissolution.
Alexandre Chevaux d'Europe 1, Amine El Khatmi, qu'est-ce que ça peut donner alors très rapidement.
Je suis complètement d'accord avec ce scénario. Je pense que c'est une des stratégies d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de pousser la France insoumise à bloquer le jeu et à pourrir la vie parlementaire et effectivement de prendre à témoin les Français dans quelques mois en disant, vous voyez, vous avez élu des gens en toute bonne foi parce que vous étiez d'accord avec leur programme, sauf qu'ils nous empêchent de gouverner, ils nous empêchent de prendre des mesures qui sont des mesures dont on a besoin pour le pays, dont on a besoin pour votre pouvoir d'achat. Et donc, bah, je reviens devant vous et on dissout l'Assemblée nationale et on repart sur des élections. C'est pour ça que je ne comprends pas cette stratégie, mais ce n'est pas la première fois que je ne comprends pas Jean-Luc Mélenchon et ses coups à plusieurs bandes. Ils auraient dû précisément profiter de l'occasion pour montrer leur sérieux, leur crédibilité, pour éventuellement dire, voilà, bah, un jour, nous, on peut gouverner le pays. Et je crois l'expression de Marine Le Pen elle-même qui disait « on risque d'avoir une ZAD au cœur de l'Assemblée nationale ». Alors, je ne vais pas reprendre l'expression à mon compte, mais effectivement, on a l'impression que c'est un peu ce qui se dessine.
C'est un vrai aujourd'hui. Risque, Gilles Maintré.
Non, mais il y a deux stratégies complètement différentes. Et là, on n'est pas en désaccord avec Alexandre Chauveau. Le RN va vouloir voter des lois ou des amendements parce que c'est le baiser de la mort. Mais s'ils savent bien que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'ils vont pouvoir dire « regardez ». Regardez, ils ont gouverné grâce à nous. Alors que la NUP est dans une toute autre logique.
Ils se sont déjà abstenus là sur le vote de Yael Braun-Pivet.
Oui, 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 absolument. Ils se sont abstenus. Ils se sont retirés en disant, voilà, comme si dans le fond, Yael Braun-Pivet leur devait une partie de son élection, puisqu'ils se sont retirés.
C'est ce que dit Mélenchon. Voilà.
C'est ce que dit Mélenchon, il le dénonce. Ouais.
Et donc on voit bien qu'il y a deux stratégies complètement différentes, mais qui visent à la même chose. Hein, c'est à décrédibiliser ce pouvoir, ce gouvernement, parce que l'un et l'autre ont, je le répète, des stratégies de renversement complet du régime.
Je ne suis pas si sûr que ça, que Marine Le Pen veut complètement renverser le régime. Mais vous avez raison, dans son programme, il y a effectivement une façon de contourner la Constitution en passant par le référendum.
Voilà. Et une fois de plus, les deux parlent de référendum d'initiative citoyenne, et ça mérite qu'on s'y arrête, parce qu'ils ne sont pas les seuls à en parler. Et Valérie Pécresse en avait parlé pendant la campagne, comme Anne Hidalgo. Donc peut-être qu'il est temps d'avoir une réflexion apaisée sur ce sujet, en arrêtant de penser que c'est une simple revendication voilà, de gilets jaunes. C'est les gilets jaunes, mais pas que, c'est 65% des Français. En revanche, et à nouveau, je répète, Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen veulent réformer la Constitution directement par référendum, ce que ne permet pas la Constitution, et c'est dangereux.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de l'entendre ça et de faire appel peut-être à des référendums plus régulièrement ou pas ? Ou est-ce qu'il aura du mal à changer son logiciel, Amine El Khatmi ?
Ça voudrait dire qu'il aurait beaucoup changé depuis...
Oui, je crois qu'on ne change pas trop.
On ne change pas. Je ne crois pas que spontanément, ce soit dans sa nature de... Je crois que la situation s'impose à lui. Je crois qu'il le vit assez mal. Le fait de devoir comme ça... Ils avaient déjà du mal à discuter avec leur propre majorité.
C'est ça.
Donc imaginez devoir... Parce que la réalité de la vie parlementaire de ce pays pendant 5 ans, mais ce n'était pas que pendant 5 ans, sous les précédentes législatures, c'était pareil. C'est le mardi matin, M. Ferrand, M. Castaner, les présidents de la majorité, avec quelqu'un de l'Élysée et de Matignon, se réunissaient et disaient, voilà, cette semaine, la semaine prochaine, on discute ça, ça on reporte, ça on discute, ça c'est oui, ça c'est non. Ça partait l'ordre du jour et on débattait. Et les députés découvraient ce qui avait été décidé en réunion. Là, il va falloir non seulement discuter avec sa majorité, parce que les 245, il ne s'agirait pas qu'il y ait des fâchés, des gens qui restent chez eux, des gens qui aillent aux toilettes, des gens qui se vexent et qui ne viennent pas voter. Il faut qu'ils soient tous là. Et en plus, il faut aller cajoler les 50 ou 60 autres pour avoir une majorité. Bon courage.
19h42, une petite pause sur Europe 1. On poursuit ce débat dans un instant sur la façon dont nos institutions vont résister à la nouvelle composition de l'Assemblée. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve avec Amine El Khatmi, essayiste, Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1, Gilles Mintré, essayiste. Il est 19h45. On va juste écouter Manuel Bompard de la France Insoumise. On parlait des députés RN et des députés France Insoumise. Écoutez comment ils envisagent les prochains mois et la façon dont ils vont s'opposer ou proposer des textes.
La situation nouvelle, c'est que l'exécutif n'est pas l'exécutif tout puissant de la mandature précédente. Et donc, le pouvoir est ici à l'Assemblée. Et on a bien l'intention de l'utiliser. Donc, dès cette semaine, nous déposerons deux propositions de loi. Une proposition de loi sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Nous l'avons proposée à co-signature d'ailleurs à l'ensemble des parlementaires qui souhaitent s'y associer. Et puis, une proposition de loi sur le pouvoir d'achat pour mieux vivre. Et nous mettrons ces propositions sur la table. Et ensuite, libre à chacun des parlementaires de cette Assemblée de s'en saisir et de les soutenir avec nous.
Voilà pour Manuel Bompard de la France Insoumise, Alexandre Chevaux. Ils vont faire beaucoup de propositions. Ils vont s'opposer sur certains textes, mais ils vont faire de leur côté beaucoup de propositions, ces députés.
Oui, comme les députés RN d'ailleurs, et beaucoup d'amendements aussi. Quand on parle avec des députés ou des anciens députés, il est prévu qu'il y ait des dizaines de milliers d'amendements.
Je crois que sur la réforme de retraite, ils en ont déposé 23 000. Hein.
Voilà, sur chaque texte. Donc ça... On parlait tout à l'heure de Yael Braun-Pivet, ça renforce sa tâche. On lui souhaite bon courage. En réalité, moi, je pense que le gouvernement et Elisabeth Borne, comme Gérald Darmanin, ils doivent gouverner avec les Républicains. Et se pose la question pour les Républicains de coopérer dans l'intérêt du pays au risque d'être associé au bilan d'Emmanuel Macron dans 5 ans. Ou bien de tracer une digue, une ligne droite et de ne pas collaborer, alors qu'en réalité, il y a tout un tas de réformes et de mesures qui sont communes aux deux groupes.
Absolument. C'est la vraie question, Gilles Mintré.
Oui, mais...
Aujourd'hui, c'est les LR. Trouvez-moi deux points de différence avec le programme d'Emmanuel Macron. Il n'y en a pas, en fait.
Oui, ça, c'est l'article de Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, aujourd'hui dans Atlantico. Il y en a notamment sur les questions sociétales. Et on se demande si finalement, ce n'est pas ça qui va se passer. On le voit là avec la proposition de loi constitutionnelle. Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas gouverner à gauche sur les questions sociétales en trouvant quelques points de convergence avec peut-être même la France insoumise ? Et on va voir comment ils vont réagir à cette proposition de loi. Déjà, on a vu que c'était très ouvert, comme l'a dit Elisabeth Borne. Et puis, à droite, sur les questions économiques. Ce qui va arranger, d'ailleurs, les Républicains, qui pourront dire à la fin, regardez, on était quand même dans l'opposition, parce qu'on était vraiment contre ces mesures sociétales. Et puis, ça va arranger la NUPES, qui va dire, regardez, on était vraiment contre les mesures économiques. Et quand Manuel Bompard dit, on a des idées sur le pouvoir d'achat et sur l'IVG, ben, c'est sûr que sur le pouvoir d'achat, c'est probablement pas ça qui va sortir de l'Assemblée. Et que sur l'IVG, peut-être que si. Voilà.
Ouais, pourquoi pas. Amine El Khatmi, une ligne de fracture sur les questions sociétales ou pas ?
Oui, c'est possible. Après, sur le son de Manuel Bompard, si ils utilisent leur groupe et leur présence à l'Assemblée pour déposer des textes, c'est très bien. Et c'est très bien que la vie parlementaire soit riche de propositions. Et sans doute seront-elles traitées de manière moins expéditive et moins méprisante qu'elles ne l'étaient au préalable, parce que je disais que la majorité était maltraitée, mais les oppositions, c'était guère mieux, c'était même pire. Donc, tant mieux si le rôle de la NUPES, c'est d'arriver avec des propositions, de dire, voilà, nous, ce qu'on veut pour améliorer la vie du pays, on aimerait en débattre, c'est bien. Ce qui serait moins bien, ce serait des stratégies d'obstruction, d'utiliser jusqu'à l'outrance des points de règlement, des demandes de rappel au règlement, des demandes de suspension de séance, des demandes qui, franchement, sont complètement stériles et n'apportent rien au débat.
Alexandre Chevaux, le calendrier des prochains jours. Là, il y a eu l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Il va y avoir les présidents des commissions dans les prochains jours.
Oui, c'est ça. Demain, je crois qu'il y a les six vice-présidents.
Six vice-présidents.
Et les trois questeurs qui sont élus. Mm-hmm. Et jeudi, la fameuse tant convoitée commission des finances. Avec une sorte de jeu de bonneteau entre le Rassemblement national, la NUPES, qui va ne présenter finalement qu'un candidat en la personne d'Éric Coquerel, et au détriment de Valérie Rabault. Et c'est tout. Mm-hmm. Mais
donc ça va être une bataille importante aussi, cette présidente.
Oui, et en fait, la question, c'est quel va être le choix des Républicains ? Est-ce qu'ils vont... Sachant que le vote est à bulletin secret, est-ce qu'ils vont voter en faveur du candidat du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, pour faire barrage à Éric Coquerel, ou est-ce qu'ils diront nous, on n'est ni LFI, ni Rassemblement National, et on vote, eux, ils présentent une candidate, mais ils savent très bien qu'elle ne va pas être élue.
Non, mais très sérieusement, s'il y a un risque que ce soit un France Insoumise à la tête de la Commission des Finances, vous pensez que les LR vont hésiter, Gilles Maintré ?
Les LR vont hésiter à voter pour quelqu'un du Rassemblement National, parce que jusqu'à présent, pour l'instant, c'est la ligne des LR. Ils n'ont pas bougé, pas une voix à Marine Le Pen, et ils n'ont pas voté jusqu'à présent dans aucune instance pour le Rassemblement National. Mais je suis tout à fait d'accord, ça va être un choix très, très difficile, parce qu'on voit bien les craintes que suscite la façon dont la LFI pourrait se servir de la Commission des Finances, qu'ils n'ont pas complètement démenti. Donc peut-être que d'ici là, ils apporteront un peu de crédibilité et de démenti à leur attitude. Par ailleurs, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui montre bien que dans les adhérents chez les Républicains, dans les sympathisants, eh bien, le RN n'est pas du tout perçu comme la France insoumise. Hein. Vous avez trois quarts des sympathisants LR qui pensent que le RN est beaucoup plus fréquentable que la France insoumise. Donc, ils vont se retrouver dans un jeu difficile.
Aminel Khatmi, vous vouliez ajouter quelque chose ?
On se focalise sur la présidence de la Commission des Finances, parce que c'est une commission prestigieuse et qu'il y a un enjeu, parce que le président, pour le coup, sera de l'opposition et a des pouvoirs. On rappelle qu'il peut aller lever le secret fiscal d'entreprises ou même de particuliers
à Bercy.
Donc ça pose quand même question et ça peut soulever des inquiétudes quant à la nature du président. Mais il y a des centaines d'autres postes qui sont en jeu, qui peuvent paraître comme ça un peu moins prestigieux, mais vous avez d'abord les autres commissions. Il y a des commissions très importantes, la commission des lois, la commission des affaires étrangères, la commission de la défense. Vous avez des centaines de groupes d'amitié, de groupes de travail. Vous avez des nominations dans des organismes importants, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, par exemple. Et donc tout ça, ça va aussi donner lieu à des tractations dont on va sans doute moins parler ici et dans les médias en général, parce qu'on est tous en réalité focalisé sur les finances, parce qu'il y a un énorme enjeu politique. Mais ça veut dire que dans les prochaines semaines, il va y avoir énormément de tractations pour que tous ces postes soient attribués. Postes qui, il faut le rappeler, sont remis en jeu chaque année. Le président qui va être élu de la Commission des Finances n'est pas élu pour 5 ans, contrairement à la présidente de l'Assemblée nationale qui l'a été élue jusqu'à la fin de la législature. Ça veut dire que chaque année, au mois de septembre, on va recommencer et on remettra en jeu l'ensemble des postes.
Le premier projet de loi sur lequel ça va batailler ferme, Alexandre Chauveau d'Europe 1, c'est le pouvoir d'achat.
Oui, alors, avec quelques mesures, la revalorisation des prestations sociales de 4%, l'augmentation des pensions de retraite, des minima sociaux, du RSA, de l'allocation adulte handicapé. Il y aura aussi, dans le projet de loi, un bouclier logement qui vise à limiter la hausse des prix des loyers à 3,5%, l'augmentation des appels à 3,5%, un chèque alimentaire qui sera distribué à 9 millions de Français en septembre si la loi est votée.
Une centaine d'euros.
Exactement, 100 euros. Le gouvernement aura besoin des Républicains pour voter cette réforme. Ce matin, Olivier Marleix est allé rendre visite à Elisabeth Borne à Matignon. Il en est sorti en disant qu'il, je le cite de mémoire, il devait pouvoir trouver un chemin ensemble sur cette question du pouvoir d'achat. La droite, elle, veut vraiment insister sur la question du travail. Ils veulent absolument revaloriser les personnes qui travaillent et non pas augmenter de manière systématique les minima sociaux.
Vous avez raison. Gilles Maintré ?
Là, ça va vraiment être... On commence presque par le plus difficile, parce que s'il y a un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord, c'est bien le pouvoir d'achat. Si on caricature, vous avez d'un côté la France insoumise qui veut augmenter les salaires, vous avez grosso modo Renaissance qui veut distribuer des chèques moins longtemps possible. Hein, on a même Bruno Le Maire qui commence à faire entendre une partition un peu différente, puisqu'on dit que la cote d'alerte des finances publiques commence à être atteinte, ce qui est une réalité grave. Et puis les Républicains qui sont pour des baisses d'impôts. Comment on va trouver un terrain commun ? Il est très probable que ce terrain commun soit entre les Républicains et en Renaissance.
Ils ne sont pas d'accord sur la politique d'échec.
Donc qu'est-ce qui va se passer ? D'ailleurs, les Républicains ont dit qu'ils allaient faire leur propre projet. Avant même d'avoir le projet du gouvernement, ils allaient déposer le leur. Donc, on n'a pas commencé par le plus facile, mais c'est quand même le plus urgent.
Et le plus urgent pour les Français, notamment Aminel Khatmi, qui, eux, ont du mal à boucler les fins de mois. Il y a urgence à prendre un certain nombre de mesures.
Ben oui, parce que la conclusion de tout ça et ce qu'il en restera à la fin, Pour les Français, c'est pas qui est élu à la présidente de la commission des finances. Est-ce que les gens de M. Mélenchon se sont bien comportés, mieux que ceux de Le Pen ou pas? À la fin des fins, l'électeur, il juge sur quoi? Est-ce que ma vie quotidienne
a changé?
Est-ce que ce qui allait mal pour moi au début s'est un peu amélioré? Est-ce que je peux offrir une vie un peu plus digne à mes enfants et à mes proches? C'est ça qui reste à la fin. C'est quand on arrive, pour des millions de Français, à la fin du mois, à la dernière semaine, et qu'on compte les euros, et qu'on compte parfois les centimes pour savoir si on va pouvoir boucler en attendant que le prochain salaire tombe. Et tout ça, ça reste. Le reste, ça part, ça nous intéresse sur le moment parce qu'on commente l'actualité. Mais ce sur quoi seront jugés les députés et le gouvernement, c'est vraiment sur ça.
Et ça sera la première épreuve du feu, Alexandre Chauveau, pour le nouveau gouvernement.
Oui, qui est attendu en début de semaine prochaine. Alors, contrairement au précédent, à la précédente formation de gouvernement, il y a peu de noms qui circulent. On a du mal à imaginer des prises de guerre. Ce dont aura besoin Elisabeth Borne, et Emmanuel Macron, ce sont des personnalités politiques plus que des personnalités issues de la société civile, comme bien on sûr. L'a vu lors oui. de la première formation du gouvernement, parce que, on l'a dit, avec l'Assemblée, avec tous les projets de loi à présenter, il faudra répondre présent.
Un dernier mot, Gilles.
Oui, quand même une phrase. C'est quand même extraordinaire qu'il ne soit pas question de changer le Premier ministre. Que de manière évidente, Elisabeth Borne reste à Matignon. Comme s'il ne s'était rien passé.
Voilà. C'est une femme, voilà, monsieur, voilà. Vous en félicitez. Mais,
et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'ailleurs, vous savez que certains noms de femmes circulent. Et comme si jamais le président de la République, finalement, c'était un peu son discours, ne prenait pas vraiment acte de ce qui s'était passé, est parti à Bruxelles, débrouillez-vous, trouvez-moi une solution. Alors que là, très clairement, les Français ont envoyé un message et qu'il faut qu'il se traduise aussi à la tête du gouvernement.
19h57 sur Europe 1, merci de votre fidélité. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les infos de 20h et El Mouloud Achour vers 22 grandes. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.